Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RMC après une après-midi totalement folle en sport. Le début de soirée va très bien démarrer aussi avec vous, vous le savez. Depuis quelques minutes, l'Union Bordeaux-Bègles est pour la deuxième fois de suite vainqueur de la Champions Cup. Succès 41-19 face au Leinster. Nous étions à Saint-Mamès il y a quelques minutes, on va y retourner bien sûr pour débriefer les festivités. Ce match grandiose de la part des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles avec Wilfried Templier, avec Denis Charvet et bien sûr nos reporters, notamment à Bordeaux où c'est la fête avec Romain Asselin. On sera aussi du côté d'Oslo, il y a du foot, finale de Ligue des Champions féminine, c'est parti depuis quelques secondes entre OL Lyon et le Barça. C'est un choc, un sommet du football européen féminin. Nous aurons une autre finale également à 19h30 avec du handball, c'est la finale de la Coupe de France. Notamment on sera avec Clément Brossard pour Nantes face à Montpellier. La Formule 1, là aussi c'est parti, la course sprint puisque nous sommes du côté du Canada. Ce week-end, les qualifs seront à 22h. Le Grand Prix, demain soir, 22h. Mais la course sprint, il y a des points à aller chercher déjà. On va y aller dans quelques instants. Et puis, bien sûr, on continue de débriefer le succès de Lens en Coupe de France. C'était la parade cet après-midi dans les rues de Lens, à l'hôtel de ville. Nous serons avec Jean Baumel et peut-être quelques bonnes réactions à prévoir. C'est dans la joie et la bonne humeur, sauf cette information, malheureusement, qui nous a tous attristés. Et cet après-midi, la bombe, l'onde de choc du côté de la Porte d'Auteuil. Arthur Fils, grand espoir pour ce tournoi de Roland-Garros pour les chances françaises, malheureusement a dû déclarer forfait. Nous allons revenir en long et en large sur cette information majeure. Il est 18h02, c'est aussi l'heure de gagner avec RMC. On vous fait gagner un chèque peut-être de 10 000 euros si vous avez de la chance pour participer à ce jeu, la liste des 26 avant la Coupe du Monde. Vous avez bien entendu, choisissez votre joueur préféré et gagnez 10 000 euros ou bien le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel et boîte Lego du trophée. Restez bien à l'écoute d'RMC. Au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer le mot liste par SMS au 732-16. Liste au 732-16. Bonne chance à tous, c'est parti pour l'intégral sport. Voilà pour l'intégral sport et on va retourner du côté de Bordeaux où c'est la folie furieuse du côté de Bordeaux, la joie pour les supporters girondins. Mais là où c'était le principal fait d'armes de l'après-midi, c'était à Bilbao, Saint-Mamès, la cathédrale et le deuxième titre des champions. On va retrouver Wilfried Templier, Denis Charvet puisque c'est l'heure de la remise des médailles.
Oui, ne traîne pas
quelques
Alex.
Secondes, le tempo va être soulevé. On y va Wilfried.
Eh oui, Maxime Lucu a les mains sur la coupe mon cher Alex. La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles 41-19 comme l'année dernière, le capitaine avec Jeff Poirot co-capitaine pour le deuxième trophée, la deuxième étoile. L'UBB est de nouveau champion d'Europe. Quel après-midi pour ce club de Nice.
Ouais,
alors qu'on voit les joueurs sauter partout, les feux d'artifice derrière eux, c'est toujours un moment particulier. Et comme l'année dernière, c'est les tauliers Poirot et Lucu qui viennent soulever cette coupe.
Cette année, ça a été plus facile, moins angoissant. L'année dernière, il y a eu du suspense. Cette année, il n'y a pas eu photo, comme on dit.
35-7 à la mi-temps, 41-19 à la fin.
Ils ont gagné en champion, en grand champion, parce qu'ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre pour chahuter cette équipe de Leinster, qui a été impuissante dans tous les compartiments du jeu. Elle n'a pas trouvé de solution. Mais il faut dire quand même que les Bordelais, ils étaient bien présents. En défense, ça a été incroyable. Ils ont été d'une agressivité hors norme. Et puis voilà. Et puis après, j'ai envie de dérouler son jeu derrière avec des envolées. Voilà. Mais c'est une grande équipe de Bordeaux qui l'emporte aujourd'hui.
Et comme souvent, Alex, eh bien, il y a tous les joueurs hors groupe, tous les membres du staff. Hein, effectivement, les coachs, le staff médical. Il y a certains enfants qui sont là. Évidemment, le président Marty qui les ont rejoints pour la, comme tu dis, la photo de famille de l'UBB qui tape très fort comme La Rochelle en 22 et 23. Eh bien, l'UBB gagne son titre, conserve son titre, une deuxième Coupe d'Europe. On précise, si vous le rejoignez, si vous n'avez pas entendu, qu'ils rejoignent un cercle très fermé de 5 clubs avec les Anglais de Leicester et des Saracens. Le Leicester, justement, qui l'avait fait en 11 et 12. Et puis, les Français, que ce soit Toulon et La Rochelle, pour conserver son titre. Mais maintenant, ils sont 6 équipes comme ça à avoir réalisé cet exploit. Et il y a un autre exploit qu'on va souligner aussi quand même, c'est que Arthur Rottière, le joueur joueur, le remplaçant à l'aile et champion d'Europe pour la quatrième fois. Il l'a été avec La Rochelle, avec Toulouse et deux fois avec l'UBB. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Il y a Emmans, les Français.
Il y a plus de place sur le CV là.
Et Michalak, il y a Kianili, Issana Sewa, Johnny Sexton et Tonnerre du Leinster. Mais il y a très peu de joueurs qui l'ont fait. Vous imaginez 4 Coupes d'Europe à son palmarès. Et là, il court. Denis, vers le public. Jalibert et Penaud, la coupe à la main. Et il lève cette coupe vers les supporters, le virage bordelais, la joie derrière Maxime Lucu, les bras en l'air. C'est important aussi d'aller partager ça.
Bien sûr, de partager absolument avec son public, qui a été incroyable aujourd'hui, hein, le public bordelais qu'on connaît, hein, mais qui est un des meilleurs publics français. Hein, mais c'est...
Et puis ça prend un peu en plus. Et ils vont aller chercher d'autres supporters comme ça, je pense. Avec les succès.
Ils jouent tout au long de la sorte. À guichet fermé, on le sait, à Chabon.
Ouais.
Et là, c'est vrai que c'est un public hors norme, fidèle parce qu'ils ont une saison quand même un peu compliquée, hein, que ce soit en championnat, pas en Coupe d'Europe, mais en championnat, oui. Et ils sont là, ils sont présents.
En parlant de Chaban, est-ce qu'on te fait une passe décisive, Alex? Est-ce que je dis ça complètement au hasard, hein, si on va pas à Chaban, on reste là.
Pour l'instant, on est bien avec vous à Saint-Mamès, mais on ira à Chaban tout à l'heure.
Extraordinaire après-midi, Alexandre. On parle de l'ambiance, hein, de ce stade de Saint-Mamès, hein, 53 000 places.
Il y a encore du monde.
On avait eu un petit aperçu hier avec. On félicite Montpellier aussi, hein, pour sa victoire en Challenge Cup. Le succès total des clubs français, hein, Montpellier qui a écrasé l'Ulster hier. Et là, pas photo entre l'UBB et le Leinster 41-19. Et puis voilà, il y a des cadres. On était à Cardiff l'année dernière, on connaît Cardiff. Bilbao, il y avait eu Bilbao en 2018, c'était sous la pluie, c'était le Racing qui avait perdu face au Leinster. Là, Denis, quand même, fin mai, ce soleil comme ça, ce stade-là, c'est aussi, ça marque les esprits.
Oui, ça marque la chaleur, l'envie, le bonheur de partager avec cette équipe bordelaise. Voilà, oui, ça marque et ça restera gravé, cette finale.
Fantastique. Alors là, les Bordelais donc, sont dans le coin de la pelouse, là, devant leur virage. Ils vont prendre la photo. Il y a la pancarte champion, Champions Cup 2026. Il y aura plein de photos. Il y aura un repas ce soir pour eux et retour à Bordeaux demain avec des festivités qu'on vous précisera.
J'ai envie de leur rendre hommage parce que c'est dur d'assumer un titre, mais c'est dur d'assumer son jeu aussi. Et aujourd'hui, ils ont gagné en imprimant leur jeu. Ils sont restés fidèles à ce qui sont, et il n'y a pas eu photo, mais ils auraient pu douter. C'est une équipe qui n'a pas de doute en fait, ils sont en totale confiance dans tout ce qu'ils entreprennent, on le voit dans tous les compartiments du jeu, et surtout je pense qu'ils ont travaillé énormément sur la défense collective qui était très agressive aujourd'hui sur l'homme, sur l'Irlandais.
Et sur l'histoire du club, Denis Wilfried, sur l'histoire du club aussi, parce qu'on en parlait des années galères avec l'étiquette un petit peu d'éternel deuxième, etc. La construction de Laurent Marty depuis plus de 15 ans maintenant pour arriver maintenant à des faits, à des résultats.
Et en se trompant pas sur le choix de l'entraîneur, pour rendre hommage aussi à Yannick Bru avec
ce qu'il a construit. Ouais.
Avec ce qu'il a construit, avec son staff, voilà, c'est tout un travail énorme. Donc et beaucoup de compétences, de qualité. Et ça aussi, on le doit à Laurent Marty de ne pas se tromper. Pas se tromper sur le recrutement parce qu'il fait partie du premier recruteur, on va guillemets le président Marty, avec évidemment Yannick Bru. Mais ils ont étoffé leur effectif avec l'arrivée de Mathieu qui a été irrésistible aujourd'hui. On l'a vu, des joueurs qui, Rayassi qui compte énormément aujourd'hui, qui a mis Buros sur la touche. Donc voilà, il y a aussi ce recrutement-là. Il y a toute une construction à mettre en valeur et qui aujourd'hui porte ses fruits.
Alors, ils ont distribué des bérets, hein, pour se décrire un peu ce qui se passe.
J'espère
qu'ils ont tous des bérets couleur Bordeaux.
À mon avis, c'est l'initiative de Maxime Lucu, non?
Je sais pas, mais ils ont tous des bérets, là. J'ai vu quelqu'un qui leur distribuait ça. Ils mettent tous ça sur la tête, là.
Vous savez quoi? Ouais. Wilfried Denis, je vous laisse le temps de récupérer un béret. Peut-être, je reviens vous voir dans quelques instants si vous avez le béret, mais on va aller à Bordeaux. Okay. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Wilfried Denis, vous bougez pas à Saint-Mamès. On va aller à Bordeaux. C'est la fête également. On va retrouver Romain Asselin qui a des supporters bordelais à côté de lui.
Ouais, avec toujours beaucoup de fêtes en tribune, hein. Il y a encore beaucoup de monde dans les tribunes de Chaban. Ils étaient 20 000. Ils sont en train de converger petit à petit vers l'hypercentre. Mais je suis avec Christophe qui prolonge les festivités ici à Chaban. Christophe, un back-to-back comme ça, avec la manière en plus. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est supporter de l'UBB?
On sent beaucoup d'émotions. On est très fiers de ces joueurs, de la joie qu'ils apportent à tout ce public. Alors nous, c'est un peu particulier parce que c'est l'anniversaire de ma femme que j'aime.
En plus, bon anniversaire, madame.
Voilà, donc on est très fiers. Non, mais ouais, on est très fiers. Ouais, voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde, partagé en famille. Voilà, ça donne beaucoup de bonheur. Merci au président Marty, au club. Merci bien sûr à la commune de Bordeaux qui a pu nous offrir ces places, ce spectacle. Donc c'est vraiment une belle journée.
Une journée un peu détente quand même, parce que dès le quart d'heure de jeu, 20e minute, bon, il n'y avait plus trop de suspense.
Oui, bon, on était forcément, on est toujours tendu. Premier essai à la 7e minute, je crois. Donc on était toujours tendu, mais bon, voilà, la puissance des avants. Franchement, ils ont fait le boulot. Et ça nous a donné une belle fête. Voilà, on est très 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 contents. Voilà, je n'ai pas beaucoup de mots à dire, c'est beaucoup d'émotions.
Ouais, on le sent dans vos yeux aussi, ça se voit. Hein.
Ben oui, supporters fervents depuis toujours, hein, depuis Musard, donc de mon gars de Bègle. Donc voilà, de voir mes petits avec moi, c'est vraiment du bonheur.
C'est-à-dire que vous avez aussi vu de près l'ascension de ce club-là.
Oui, vous avez vu de près l'ascension. Ben, l'ascension, oui. Ben, du CAV passé au CABVG, en montant par maintenant l'UBB, enfin, c'est magnifique. Magnifique. Tout l'investissement du club, c'est franchement que du bonheur. C'est que du bonheur. En tant que spectateur, je suis très fier d'être Bordeaux-Béglé. Et voilà, et d'avoir partagé ça en communion avec le public, c'est vraiment génial.
C'est quoi le programme ce soir, demain aussi? Alors, pour ceux qui nous écoutent sur RMC, on rappelle, hein, la parade va commencer à 15h, le bus à Impérial qui va arriver place de la Comédie, les joueurs seront reçus à la mairie de Bordeaux à 16h, et ensuite, bah, on sera à nouveau là, Christophe, 18h30, les célébrations à Chabandelmas.
Ouais, bon, nous, malheureusement, on vient d'un petit village du nord des Landes, Mayas, mais par contre, on sera tout cœur, on va voir si on peut essayer de faire le déplacement à nouveau. Mais bon, on sera tout cœur avec les joueurs et avec le public, avec tous les passionnés de rugby qui seront accompagner cette nouvelle parade. Quoi. Voilà. On essaiera d'y aller.
Bon, merci Christophe, t'es allé. C'est les joies du direct, je vais me rapprocher de madame, puisque c'est son anniversaire. Juste un petit mot, c'est votre anniversaire aujourd'hui.
Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, oui.
Il n'y a pas plus bel anniversaire que cette victoire de l'UBB.
C'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir aujourd'hui pour fêter ça. C'est super.
Bon, ouais, merci. Bah, tout RMC vous souhaite bon anniversaire.
Exactement.
Et faites-le bien.
Fais passer le message, Romain.
Merci beaucoup. Voilà.
On adore ça. On adore ça. C'est franchement un jour très heureux pour les Bordelais, bien sûr. Donc, merci Romain. Tu reviens nous voir dès que tu as des réactions, bien sûr, avec autant de joie du côté de Bordeaux après ce titre en Champions Cup. Le deuxième titre consécutif acquis face au Leinster cet après-midi 41-19. Il y a beaucoup de sport ce soir sur RMC, bien sûr. On va tout vous faire vivre, et notamment en football, la finale de la Ligue des Champions féminine. C'est parti depuis une dizaine de minutes. Bonsoir Morgane Maury, c'est un choc au sommet. Barcelone face à OL Lyon.
Oui, le Barça, la meilleure équipe européenne des années 2020. L'OL, la meilleure équipe européenne des années 2010 avec 8 titres. Elles rêvent de récupérer un titre qu'elles n'ont plus conquis depuis 2004. Elles avaient battu Barcelone déjà à l'époque, 13e minute à Oslo, 0-0 entre les Barcelonaises et l'OL Lyon. La meilleure action pour l'instant est pour Alexia Putellas, la capitaine du Barça. Une frappe à ras de terre légèrement trop à droite des poteaux de Hendler, la gardienne de Lyon. 13 minutes, 0 pour Lyon, 0 pour le Barça.
Merci Morgan. On espère que le succès de l'UBB va donner des idées aux Lyonnaises qui veulent aller chercher donc ce 9e sacre dans la compétition. Merci, à tout à l'heure Morgan. Il y a aussi la course sprint Grand Prix du Canada ce week-end en Formule 1. Jean-Luc Roy est avec nous. Rebonsoir Jean-Luc.
Oui, rebonsoir Alex.
C'est parti déjà dans la course sprint, bien sûr emmenée par les Mercedes avec George Russell et Kimi Antonelli, mais pas que.
Et pas que, emmenée par la Mercedes de George Russell qui a effectivement pris le meilleur départ devant Antonelli. Antonelli est resté dans son sillage, a tenté de l'attaquer. Alors je précise que nous sommes au 9e des 23 tours de cette course sprint. Russell est donc au commandement devant Norris derrière, qui est à 8 dixièmes hein, seulement, la McLaren performante, et puis Antonelli 3e. Pourquoi? Eh bien parce que Antonelli a tenté une attaque dans le virage numéro 1, mais clairement eh bien Russell l'a répliqué, on va dire, de manière virile. Et d'ailleurs à la radio, Antonelli s'est plaint de cette réaction. Il a dit: il m'a poussé dehors carrément. Donc là on peut commencer à entrevoir l'entente cordiale. Oui, l'entente cordiale là, ça va peut-être pas durer toute la saison. Donc clairement Russell a dit: là celle-là elle est pour moi. Antonelli a été sorti partie de la piste. Alors, dans la dernière chicane également, il a commis une erreur, peut-être parce que sa monoplace est un petit peu abîmée, hein, perturbée après cette sortie. Mais en tout cas, il est toujours en course. Il est troisième maintenant. Et il est a priori sous les assauts de Lewis Hamilton. A signalé l'excellent départ de Lewis Hamilton avec la première des Ferrari, qui est actuellement quatrième et à la chasse à l'Antonelli. Donc, on peut dire que la Mercedes est réduite. Derrière, on a Piastri avec l'autre McLaren, cinquième. Charles Leclerc, sixième. Verstappen, septième. Lindblad, le dernier à prendre des points, le jeune britannique de Racing Bull. Et puis, Hadjar a dû abandonner avec des problèmes techniques, apparemment.
Oui, ça, c'est la mauvaise nouvelle pour Isaac Hadjar. Merci, Jean-Luc. On revient sur cette course au sprint du Grand Prix du Canada. Mais on retourne à Oslo, finale de la Ligue des Champions féminines. Morgan Morris, c'est parti avec un premier but.
Et ça fait 1-0 pour Lyon. On savait qu'elles étaient fortes sur coup de pied arrêté. Un coup franc de Selma Bacha à 30 mètres sur la droite des cages barcelonaises. C'est déposé sur la tête de Wendy Renard à l'angle des 6 mètres. C'est repoussé par la gardienne barcelonaise et Ips et qui récupère le ballon et le pousse au fond des filets. Mais on vient d'annoncer une analyse vidéo, Alex. 1-0 pour Lyon, mais peut-être 0-0 dans quelques instants. 15e minute, Lyon qui va peut-être mener 1-0 grâce à une réalisation de Lindsay Ips.
Merci Morgan Maury. 18h15, vous êtes bien sur RMC, c'est l'intégral sport. On est ensemble jusqu'à 20h. On va revenir en long et en large, bien sûr, sur les fêtes après le titre de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup, deuxième titre d'affilée après avoir battu le Leinster 41-19 cet après-midi. Nous serons en direct de Saint-Mamès à Bilbao avec Wilfried Templier, avec Denis Charvet, le sourire de Louis Biel-Biarré, auteur de deux essais encore cet après-midi, élu joueur de la compétition, le sourire de Maxime Lucu qui a soulevé le trophée, lui élu joueur du match. On continue bien sûr avec les festivités à Bordeaux et puis on surveille tout ce qui se passe à côté dans l'actualité sportive et je vous réserve même un invité surprise pour fêter ce titre de l'UBB. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
18h19 sur RMC. On continue de fêter le titre de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup. On va retourner à Saint-Mamès, à Bilbao dans quelques instants. Mais tout d'abord, retour à Oslo, finale de la Ligue des Champions féminines de football avec Barcelone face à OL Lyon. Morgan Maury, on était resté sur un éventuel but lyonnais, mais revu par la VAR.
Oui, annulé. Position de hors-jeu de la buteuse Lindsay Ips lors de la tête de Wendy Renard, repoussée par la gardienne. Elle était en avance sur la dernière défenseuse du Barça. 19e minute, le FC Barcelone et Lyon sont à égalité 0-0. Il vient d'y avoir une alerte sur la cage lyonnaise. Une tentative de lob de la soulier d'or de l'an passé, la polonaise Eva Pajor pour le Barça. C'est passé légèrement à droite des cages lyonnaises. 19 minutes, Barça 0, Lyon 0 à Oslo dans cette finale de la Ligue des Champions féminines.
Merci Morgan Maury. Retour donc à Bilbao pour savoir s'ils ont pu récupérer des bérets, Wilfried Templier, Denis Charvet.
Non, on n'a pas récupéré de béret. Par contre, je t'annonce, c'est le show Maxime Lucu en bas du virage de l'UBB. Il a mis le maillot offert à tous les joueurs nés au Pays Basque par l'Athletic Bilbao. Il l'a mis sur la tête. Et là, il est en train de traverser toute la tribune. Il est en train de taper sur les tambours. Il est monté sur une chaise. Il faisait danser le virage. Et là, je peux te dire que c'est le chouchou du public bordelais. Et ben, il continue tout au long du virage pour aller taper dans les mains, s'arrêter, danser, les bras en l'air. C'est magnifique. Magnifique ce qu'il fait Maxime Lucu, puis là il en a pas besoin, hein, mais il va s'attirer une sympathie.
C'est
là.
Vraiment l'homme de l'UBB, hein,
ah,
c'est
prend le temps,
l'homme d'un club.
Il prend le temps pour aller du bas du virage à droite jusqu'à gauche, hein, pour aller voir tous les gens. Il a serré, il connaissait certaines personnes, hein, j'ai vu, il a serré des supporters. Et là on est en train de le suivre, là il continue, il arrive un peu plus loin, il s'arrête, il y a la télé qui est là avec son maillot de Bilbao sur la tête.
Et les joueurs n'arrivent pas à sortir du terrain,
ça s'arrête jamais, Denis. Ah,
t'as envie de profiter du moment, c'est certain.
Sachant que ça va rejouer le week-end prochain déjà, donc il profite à fond ce soir. J'ai un invité surprise pour vous, Wilfried et Denis. T'as parlé du show Maxime Lucu. Il y a aussi le Moscato Show sur RMC, puisque Vincent participe à la fête aussi. Salut Vincent.
Comment ça va?
ça va aller, Vincent.
Tu t'es régalé?
Ben ouais, je t'ai régalé. On est en mutant de fou, ils donnent pris ces mecs, c'était extraordinaire. C'est un doublé. Écoute-moi, je comprends que le petit Lucu, il reste sur le terrain, il savoure un maximum, mais parce qu'il sait que le Bayern, c'est l'homme du match, et puis le temps lui est compté. Donc, il a 33 piges, ce qu'il vient de faire, c'est extraordinaire, gagner deux titres. Il rejoint La Rochelle, il rejoint Toulon, presque Toulon. Toulon qui avait fait un triplé. C'est magnifique, bravo. Les Leicesters ont explosé comme des pop-corn, ils n'ont pas tenu, c'est une boucherie. Ça a été très très bien, hein. Maintenant il faut qu'ils se positionnent se positionnent pour le titre. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils arrivent à redoubler ce doublé championnat Coupe d'Europe. J'ai l'impression qu'ils ont le talent. Ils ont le talent pour le faire. À ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, ils ont le talent. C'est poli le paquet d'avant. Et derrière, là, c'est incroyable.
Mais c'est marrant, on avait la même discussion il y a quasiment un an, hein. Vincent, Denis, Wilfried, faut qu'ils se positionnent sur le titre derrière.
Mais en fait,
c'est compliqué.
Le talent, Denis, Vincent, le talent ils l'ont, on le sait. Bah, sûr, mais est-ce que l'énergie ils l'auront? C'est la question.
La fraîcheur.
Alors, écoute-moi, la chance qu'ils ont eue, hein, c'est que je pense que même si c'était engagé, le fait de gagner bien un mot, je veux dire, il y a eu des matchs plus durs pour eux. Il y a eu des matchs plus durs. Je ne veux pas minimiser l'engagement physique et tout ça, mais ils ont la chance de gagner bien en avant, de faire rentrer tout le monde et de peut-être pas y laisser la couronne comme tu peux
de gérer.
Tu vois, de gérer la deuxième mi-temps, on l'a vu, ils ont géré les mecs et tout ça. C'est plutôt intelligent pour la suite. Je pense qu'ils, et bien entendu qu'ils ont laissé du gaz, du physique et tout ça, mais moins que sur une finale qui aurait été tenue jusqu'au bout, c'est au début, nous avons fait peur. Imagine que ça continue, là, il sort comme dans les 10 premières minutes, il va c'était formidable. Imagine ça, ça aurait été jusqu'à la fin, ça aurait été une dépense d'énergie incroyable, alors que là, il y a une très chance de peut-être gagner un peu sur la récupération
On rappelle d'ailleurs que l'UBB jouera donc le 31 mai à Toulon en top 14, qui sont 5e actuellement.
Ils ont annoncé qu'ils feront tourner.
Avant de recevoir Clermont pour la dernière journée.
Pour la qualification.
C'est ça, effectivement.
Pour la qualification, il faut être Toulon. Bon, écoute-moi, ça devrait le faire, je pense. Après, c'est vrai que maintenant, il faut qu'ils se positionnent. Quand ils ont un doublé, il faut qu'ils se positionne fort sur ce Brenu qui leur manque, parce que cette équipe le mérite énormément. Il faut qu'ils le prennent. Mais déjà, ce qu'ils ont fait, de faire un doublé en Coupe d'Europe, deux ans d'affilée, c'est magnifique. Et bravo, président Martin. Comme je l'ai vu, il est magnifique. Avec le couple de Michel Drucker, ce couple de cheveux incroyable. Il est incroyable. C'est magnifique. Moi, il n'a pas mis.
Tu as vu, il est parfait, Vincent. Il n'y a pas de fausse note.
Le pantalon intergal, le cuir sur le devant, les chaussures, les Minelli, c'est le dernier à porter les Minelli à mon propre devant, c'est magnifique.
Il est beau
comme tout, il a l'image de ce jeu, de ce Bordeaux, de cette équipe, et puis de Saint-Douma, parce que c'était le supporter de Bordeaux, c'est extraordinaire. Bravo, c'est un super club, et je suis fier pour eux.
Merci.
Il y aura 4 matchs qu'on disait avec Denis, Alex. Attends, il y aura, s'il faut tourner à Toulon, il y aura 4 matchs à remporter. Clermont, barrage, demi et finale, 4 matchs de suite. Alors il faudra l'énergie pour eux. Mais voilà, c'est la suite. Et je vous informe que Maxime Lucu est toujours en bas de la tribune. Ils commencent tous à rentrer. Il va y rester toute la nuit là.
Ils vont lui filer les clés pour fermer la lumière ce soir s'il est tout seul.
Ouais, sûrement.
Le cœur il va rentrer, ils vont lui filer les clés, ils vont lui fermer la lumière. Écoute-moi, c'est merveilleux pour le rugby français, pour tout. Moi, je vais te dire, ça mérite une Marseillaise.
On était, il y en a eu plusieurs Marseillaises d'ailleurs dans le match.
Il y en a eu plusieurs, c'était bien, l'ambiance, il faisait quoi?
C'est magnifique, moins chaud qu'hier, Vincent, il y avait plus d'air, c'était plus frais qu'hier soir où ça a été très étouffant.
Écoute-moi, moi j'ai regardé le match, je me suis cassé à 10 minutes de la paix, j'étais chercher un ventilo, j'en pouvais plus. chez Gaston, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est matériaux. J'étais obligé.
Prêt pour l'été, Vincent.
Je transpirais sur le canapé, j'étais mis chercher. Un ventilo, mais là j'ai les plus gros. C'est-à-dire, c'est le soufflerie. Le soufflerie, c'est le canapé qui bouge tellement ça souffle.
Imagine-nous en tribune, quoi.
Ouais. Ah non, mais bon,
écoute-moi, je l'ai mis, j'ai le fauteuil à côté, il bouge tellement. J'étais pris un truc, on prend un truc d'avion, un aéroguiseur. Ouais, c'est trop chaud.
Bon, on va te remercier. Merci Vincent d'être passé après cette victoire de l'UBB. Ciao, ciao. Tu dois bosser le conducteur du SMS pour lundi, bien sûr.
Ciao
Vincent. Vincent Moscato qui est passé pour lui aussi fêter le titre de l'UBB. Maxime Lucu qui continue son tour de stade, hein, Wilfried et Denis.
Ouais. Il prend des photos avec des enfants en fait. Là, je vois, il prend le temps de. C'est ça qu'on le disait, Alex, qui est exceptionnel.
Il y a quand même Vincent, il fait partie de l'histoire. Hein.
Bah, bien sûr.
Je veux dire, il est. Ils ont construit ça depuis des années, c'est une trentaine, plus de 30 ans maintenant, et même si le nom n'est pas le même, parce qu'ils ont changé de nom, moi je pense que voilà, ça fait partie de l'histoire du club, et c'est des hommes incontournables qui ont fait le club.
Oui, puis on le disait tout à l'heure quand on parlait du travail de Laurent Marty depuis plus de 15 ans, mais c'est vrai que sans brûler les étapes non plus, c'est un club qui a su patienter, voilà, oui, patienter, et ça c'est pas donné à toutes les structures professionnelles aujourd'hui de savoir patienter.
Mais patienter, il faut qu'il y ait déjà un public derrière qui te soutienne, que les finances aillent bien, c'est le cas à Bordeaux. Bien recruté, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. On le voit, le recrutement qui a été fantastique à Bordeaux, l'apport des jeunes, de Mathieu, cette fraîcheur, Gazzotti qui revient, qui arrive à un niveau qui n'était pas le sien, mais qui est un niveau incroyable. Voilà, c'est l'intelligence de stratégie par rapport à cette évolution de ce club.
Il y a eu un développement pas à pas, passé de Alban Moga, le stade, à Chaban-Delmas. Au début, il y avait des délocalisations à Chaban-Delmas au début. Après, ils s'y sont installés quand les Girondins sont partis. Faire venir les bons hommes. Christophe Furios les a fait passer un cap en les qualifiant plusieurs fois. Yannick Bru derrière les a fait gagner. Voilà.
Le jeu à guichet fermé.
Guichet fermé, 33 000 spectateurs à chaque match à domicile.
Vous en avez beaucoup parlé entre les poteaux tout au long de la saison, de ce développement et même de la saison dernière, du développement de la région.
La Gironde, bien sûr.
Avec des titres européens.
En dessous, Arcachon, la Thèse, tout ça. Il y a des coins. Voilà, comme tu dis, c'est une terre de rugby. On a Bègle. Voilà, a marqué l'histoire avant. Il y a eu un changement avec les Girondins de Bordeaux qui ont chuté derrière, et le leadership a été pris.
Ils ont bien pris le virage, surtout. Ils ont profité aussi de cette faiblesse des Girondins, et derrière, ça a enchaîné et ça a réussi. Après, il faut que ça réussisse sur le terrain aussi. Il faut gagner des titres, c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Voilà, et des fois, l'écart est faible, est mince entre une victoire et une défaite, mais là, ça engrange. Et ce que je disais à Denis, je pense que Alex, quand tu gagnes des titres, tu gagnes des supporters aussi.
Bien sûr.
Tu gagnes des jeunes, des jeunes supporters,
l'engouement de toute une région.
Oui, on se rend pas compte. Mais pas qu'une région, peut-être aussi.
L'influence que ça apporte, voilà. On le quantifie pas aujourd'hui, mais ça va être fantastique pour
ça veut dire que ça vient concurrencer le Stade Toulousain, parce que les Toulousains, ils expliquent que ce qui est plus douloureux pour eux, c'est de voir les autres lever les trophées, parce qu'ils aiment ça, les trophées, ils sont gloutons de trophées. Donc ça continue. Ça pimente un peu le rugby français aussi dans cette concurrence entre eux et entre d'autres clubs qui sont là aussi. Donc voilà, c'est profitable et c'est
bravo à eux, chapeau à eux.
Ouais, c'est ce que Johan Hugé aimait bien rappeler tout à l'heure, que les Toulousains avaient toujours l'avance, mais ça commence à être comblé petit à petit. Voilà.
Ouais, encore, ils en ont 6 quand même. Hein, voilà.
L'UBB faut commencer à revenir sur Toulon, c'est ce qu'on dit. Il y a des étapes, mais en tout cas, c'est le rugby français qui brille dans cette compétition. C'est le 14e titre quand même. Ça commence à vraiment être marquant par rapport à la concurrence aussi, donc il faut savourer ça.
Et on va vous laisser juste avant le point. Maxime Lucu, il a continué. Non mais il s'arrête. En fait, il y a les supporters bordelais qui sont au premier rang dans tout le stade. Et non seulement il a fait le virage, mais il continue. Il est en face sur la ligne droite. Donc j'ai l'impression qu'il va il va, comme disait Vincent, il va sortir du stade.
Il va faire le tour.
Il est dans le coin là-bas maintenant. Je vois avec son maillot de Bilbao sur la tête. Il prend le temps de prendre des photos et tout avec les gens. C'est magnifique.
Bah, Wilfried, si jamais tu nous fais une actu Lucu jusqu'à ce qu'il reparte du stade. On te laisse antenne ouverte quoi qu'il se passe avec Maxime Lucu. Mais merci en tout cas Wilfried et Denis, vous nous avez régalé cet après-midi. On a vécu une grande finale et bravo à l'UBB. On continue de débriefer bien sûr cette victoire ce soir. Mais merci à tous les deux et ceux qui vous entourent à Saint-Mamès, j'oublie pas Nico Paolorsi, Romain Asselin à Bordeaux aussi pour toutes les réactions à venir. Il y aura bien sûr la parade à vivre demain en direct sur RMC à partir de 15h depuis Bordeaux. Voilà pour le rugby. Il y a d'autres sports aussi à côté cet après-midi. C'est un grand week-end de sport sur RMC. Je fais un point rapide par le football. La finale de la Ligue des Champions féminines à Oslo. Morgan Mori, on en est au niveau du score entre Barcelone et les Lyonnaises?
C'est la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre le Barça et Lyon. Lyon qui est dangereux sur les phases de coups de pied arrêtés, mais aucun but marqué. On rappelle le but refusé à Ips, la Lyonnaise. Barça 0, Lyon 0 dans cette finale de la Ligue des Champions.
Merci Morgan. Et puis on arrive à point nommé pour la fin de la course sprint du côté du Grand Prix du Canada, bien sûr, qui sera demain soir sur RMC. On est dans le dernier tour, Jean-Luc Roy, pour cette course sprint.
Tout à fait, Alex. Dernier tour de la sprint race et George Russell a eu du mal, hein, mais il a réussi à maintenir la McLaren de Lando Norris qui a été très très proche, à moins de 2 dixièmes à un moment, mais il n'est pas parvenu à trouver l'ouverture. À l'inverse, c'est bien derrière Antonelli, dont la monoplace a conservé ses performances malgré 3 sorties de piste, hein. Il a coupé les chicanes. La dernière, c'était encore une attaque à l'extérieur extrêmement talentueuse, extrêmement bien tentée, mais ça n'est pas passé pour prendre l'avantage et pour la 2e place sur Lando Norris. Eh bien, Antonelli va terminer 3e. Donc, on a Russell 1er. C'est le poleman. Il va marquer 8 points au championnat, n'oublions pas. Norris 2e va en marquer 7. Et puis, Antonelli 3e. Mais je pense qu'il y aura des discussions au sein de l'équipe Mercedes, comme je te l'ai dit. Parce que tout à l'heure, eh bien, Antonelli a vraiment protesté vigoureusement, puisqu'il a considéré que Russell l'avait poussé dehors dans ce virage numéro 1. Antonelli termine 3e. Donc, du côté des Mercedes, eh bien, la performance est là. Piastri est 4e avec l'autre McLaren. Il est parvenu à conserver Charles Leclerc derrière avec sa Ferrari et Lewis Hamilton qui s'est loupé juste à la fin parce que Hamilton, eh bien, était lui sur les talons de Piastri. Donc là, Leclerc a pris l'avantage, la 5e place sur Hamilton, 6e dans le dernier tour. Verstappen termine 7e et le dernier point sera pour le jeune Britannique très talentueux Arvin Lidblad.
On va débriefer cette course sprint et surtout présenter les qualifs, oui, hein, tout à l'heure, oui, oui, Jean-Luc, avec toi bien sûr. Mais le début de la romance entre Kimi Antonelli,
il y a toujours un moment où on y arrive.
Ça me ramène à l'année dernière, tiens, entre Piastri, oui, et Norris, où voilà, par devant c'était bien sûr les meilleurs potes du monde, hein, en sûr, communication, et puis par derrière beaucoup de jalousie. Donc la saison va peut-être être rythmée de cette manière.
Le problème, c'est quand on domine comme ça outrageusement, effectivement. Alors là, un peu moins le cas. Hein. Les McLaren sont dans le coup, mais forcément il y a un moment où les pilote s'explique sur la piste.
Allez, on en reparle dans quelques instants, bien sûr. 18h33 sur RMC, la suite de l'intégral sport après le titre de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup, le 2e d'affilée après avoir battu le Leinster 41-19. Il y a la finale de la Ligue des Champions féminines en ce moment, 0-0 entre le FC Barcelone et OL Lyon. Et puis, on va parler de la mauvaise nouvelle de la journée, celle qui a fait beaucoup de bruit également, c'est du côté de la porte d'Auteuil, puisque Arthur Fils, en conférence de presse, le tennisman français, a annoncé malheureusement qu'il devait déclarer forfait pour le Grand Chelem de Roland-Garros. On en parle dans un instant en direct de la porte d'Auteuil avec Anthony Reich. Restez bien avec nous.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
18h37 sur RMC, bienvenue dans l'Intégral Sport, bienvenue sur RMC si vous le rejoignez à l'instant après cet après-midi ponctué par la joie des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles, du peuple girondin cet après-midi, 2e Champions Cup d'affilée dans l'histoire du club bordelais, bordelot-béglais, même si on le dit bien, avec Maxime Lucu, le capitaine qui a soulevé le trophée. La joie de tous les joueurs, bien sûr partagée à Saint-Mamès, à Bilbao, c'était la fête et c'est encore la fête également du côté de Bordeaux. Restez bien avec nous, on va avoir toutes les réactions bien sûr des joueurs à vous donner, alors qu'il y a d'autres finales qui se jouent en ce moment même du côté d'Oslo avec Morgan Maurice et le Barça face à OL Lyon. C'est la finale de la Ligue des Champions féminine, fin de première période bientôt, Morgan.
Oui, moins de 10 minutes encore dans cette première période, 0-0 score nul et vierge, mais le danger se fait de plus en plus fort sur la cage lyonnaise grâce à Pajor, notamment l'attaquante polonaise du Barça. Ça tient côté lyonnais, mais le danger est de plus en plus fort. 0-0 pour le moment entre le Barça et Lyon dans cette finale de Ligue des Champions. 38e minute à Oslo.
Et on rappelle, Morgan, qu'il y avait eu un but pour les Lyonnaises qui a finalement été annulé après visionnage de la vidéo.
Oui, un but de Ips consécutif à un coup franc de Selma Bacha, une tête de Wendy Renard repoussée par la gardienne, et Ips qui était un peu trop avancée au moment où elle a poussé le ballon au fond des filets. Le ballon qui est pour les Lyonnaises dans la partie de terrain des Catalanes. 38e minute, c'est une touche pour l'équipe française. Il y a le ballon pour Vicky Béchaud, justement la pile électrique de cette équipe lyonnaise qui est sur le côté droit. Centre et c'est repoussé des 2 points par Cole, la portière catalane. 0-0, 38e minute dans cette finale de Ligue des Champions à Oslo.
Merci Morgan. Direction maintenant la porte d'Auteuil parce que c'est une journée assez folle là aussi qu'on a vécu, mais pas forcément du côté de la joie pour les forces françaises. On le rappelle, hein, il y avait 12 Français au départ de cette édition de Roland-Garros qui commence demain pour le tournoi tableau principal. Bien sûr, on va rejoindre Anthony Reich qui est en direct de la porte d'Auteuil. Salut Anthony.
Salut Alex, salut à tous.
Et le coup de tonnerre qui est donc tombé dans le milieu de l'après-midi pendant la finale de l'UBB notamment. Arthur Fils a donc annoncé son forfait pour le tournoi de Roland-Garros. On en parlait tout à l'heure, il y avait pas mal de flou sur ces derniers jours, dernières semaines, son forfait au 2e tour du tournoi de Rome. Et finalement Arthur Fils a dû déclarer forfait cet après-midi. Raconte-nous un petit peu le déroulé d'une journée assez bizarre.
Bah écoute, il était prévu au planning d'entraînement à deux reprises aujourd'hui, après sa première vraie séance qu'on a pu voir hier. Donc il tapait à 11h sur le cours Philippe Châtrier avec Yeri Lehechka, donc un membre du top 20 mondial. Donc là on s'est dit, ah, bon indicateur, ça veut dire qu'il veut faire une vraie séance test. Cette séance s'est plutôt pas mal passée de l'extérieur. Il a tapé une heure et ensuite il a disparu normalement, hein, la douche, le repas, etc. Mais en fait c'est à l'issue de cette séance là qu'avec son staff Arthur Fils, eh bien ils ont décidé de déclarer forfait, car il a eu à nouveau des douleurs à cette hanche qui le gêne depuis le tournoi de Rome, et c'est à partir de là qu'ils ont pris la décision. Vers 16h, il était annoncé pour une deuxième séance d'entraînement qui a été annulée, et il a convoqué la presse à un petit peu après 16h justement pour déclarer son forfait. Donc une journée assez bizarre, assez difficile pour le tennis français et pour le public français, parce que je suis allé les voir dans les allées, et je peux te dire que le mot Arthur Fils et le forfait d'Arthur Fils étaient dans toutes les conversations. Beaucoup de gens le voyaient en demi-finale déjà ici, donc c'est un énorme coup dur pour les espoirs de belles performances françaises dans le tournoi.
Ouais, tu avais fait le déroulé hein, de sa saison, son retour de blessure, puisqu'on rappelle, il y a un an, bien sûr, c'était une grosse blessure qui l'avait marqué. Il avait dû sortir du tournoi, absent pendant 8 mois. Il avait fait une grosse préparation pour revenir en début de saison, notamment au mois de février. Il avait surtout gagné à Barcelone, enchaîné les 2000, les quarts, notamment en Masters 1000. Et puis, il y avait un grand espoir pour son tournoi donc à Roland-Garros. Je vous propose d'écouter donc Arthur Fils tout à l'heure en conférence de presse sur son forfait à Roland-Garros.
Je l'ai senti venir. Après, j'ai tout fait pour être prêt pour pouvoir jouer. La question est assez simple. Si tu t'entraînes pas, ça fait 2 semaines que tu t'entraînes pas. Même sans t'entraîner, quand tu reprends, tu sens toujours un peu mal, enfin, toujours un peu de douleur. Ça en devient assez simple. Tu réfléchis et tu dis, Arthur, est-ce que t'es prêt à aller loin dans ce tournoi? Ou est-ce que ton but, c'est juste de passer un tour ou 2 tours? Je connais ma réponse. Je sais que mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, et je sais qu'aujourd'hui, je suis pas capable de le faire. Je serai pas à 100%. Je suis même pas sûr d'être à 50%. Donc, je vais pas prendre de risques.
Et voilà pour les interrogations qu'on avait notamment ces dernières semaines. Il n'était pas à 100% Arthur Fils. Il y a une question aussi, une décision forte à prendre, Anthony, quand on s'apprête à disputer un tournoi majeur comme ça, qui est très long, avec des matchs qui peuvent aller en 5-7, bien sûr aussi sous la chaleur. Il le sentait pas, et c'est une décision difficile à prendre quand on sait, ouais, quand on se connaît soi-même sur pouvoir tenir un tel rythme, sachant en plus qu'il avait peut-être aussi dans un coin de sa tête ce qui s'était passé l'année dernière.
Ah oui, bah je pense que il se sent un peu maudit. Hein. Il m'a frappé, Arthur Fils, quand il est entré dans la salle de conférence de presse. Je l'ai trouvé très abattu. C'était pas le même état d'esprit que l'année dernière, où la blessure lui tombait dessus, et bon, bah c'était tout récent. C'était la première fois qu'il devait déclarer forfait. Donc là, ça fait 2 années de suite. Et puis il faut le dire, les matchs en 5-7 sur terre battue, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est l'épreuve physique la plus totale dans le tennis. Et s'il voulait aller loin, il savait qu'il allait devoir être confronté à ce genre de physionomie de rencontre pour tenter de faire une très belle deuxième semaine. Donc son corps ne pouvait pas lui permettre de faire ça. Il s'est même excusé après la conférence de presse, une fois que les micros étaient, les questions étaient terminées, comme s'il était un peu gêné de déclarer forfait. C'était assez touchant, parce que tout le monde l'attendait, et il a frappé la planète tennis sur son retour ces derniers mois, avec, tu le disais, ce titre à Barcelone, la demi-finale au Masters 1000 de Madrid, sur terre battue. À part son forfait, en fait, il n'y a que Yannick Sinner hein, qui l'a battu.
Tu le rappelais à la race, donc le classement sur cette année, il était clairement top 10 en plus. Hein.
Ah ben il était cinquième. Sur la saison en cours, c'est le 5e joueur du monde. Enfin, c'est phénoménal.
Avec l'absence d'Alcaraz en plus, le fait qu'il soit dans la partie de tableau de Zverev, il y avait tous les indicateurs
pour qu'il puisse se projeter sur un éventuel 8e de finale face à Alexander Zverev. Malheureusement, ça sera pas le cas. Ce qui est peut-être un petit peu inquiétant, si j'ose dire, c'est que là, bon, il nous parle effectivement à nouveau de cette douleur à la hanche, mais c'est encore un peu flou. Va falloir vraiment, et il nous l'a dit, hein, il va prendre soin de son corps, voir ce qui ne va pas au niveau de cette hanche, pour que cette douleur ne revienne pas, parce que là, ça fait 3 semaines que ça le gêne. Donc c'est pas une petite douleur et c'est pas une petite blessure certainement.
Douleur à la hanche encore, mais pas la même que l'année dernière. Hein. C'est ça qui semble.
Non, parce que l'année dernière, c'était les lombaires. C'était une fracture de fatigue du dos, donc on n'est pas du tout, on n'est pas sur la même blessure a priori. Va falloir voir un peu comment ça évolue dans les prochaines semaines. Il nous a dit de toute façon qu'il allait tenter de se préparer pour la saison sur gazon. Donc en fait, clairement, le prochain objectif c'est le 29 juin, c'est le début du tournoi de Wimbledon. Ça sera un indicateur fort pour voir si il peut à nouveau rejouer au très haut niveau.
Bien sûr, tu le disais, ça faisait réagir dans les travées de Roland, ce forfait. Tout le monde n'avait que ce mot en bouche, le forfait d'Arthur Fils. Il y a un auditeur au 32-16 qui nous appelle, il est fan de tennis, fan d'Arthur Fils, j'imagine, c'est Arthur en plus qu'il s'appelle. Salut Arthur.
Salut l'équipe.
Tu es avec nous bien sûr dans l'intégral sport, ouais. J'imagine que tu es dévasté par l'annonce que tu as entendue tout à l'heure.
Ouais, je suis dévasté, je l'ai appris sur les réseaux comme beaucoup, on avait peur ces derniers jours parce qu'on savait qu'il s'entraînait pas, personne le voyait dans les travées de Roland, et puis l'espoir était permis depuis hier parce qu'il s'entraînait ce matin, il devait s'entraîner cet après-midi, et puis la nouvelle tombe et forcément ouais, c'est la soupe à la grimace.
Tu le voyais aller loin dans le tournoi cette année, avec, on en parlait avec Anthony, des forfaits à droite à gauche, notamment d'Alcaraz surtout.
Ouais, forfait d'Alcaraz. Après, il avait un tirage qui était plutôt correct. Il pouvait évidemment ne pas jouer la bête noire de tout le monde une heure avant une éventuelle finale. Une partie de tableau avec un potentiel huitième contre Zverev. Bon, en montant en puissance, c'était voilà. Il y avait un beau premier tour à jouer contre Wawrinka, avec beaucoup d'émotions pour sa dernière aussi. Et là, c'est vrai que très honnêtement, à part Arthur Fils, on voit pas qu'il va pouvoir dans les Français aller chercher même ne serait-ce qu'une deuxième semaine cette année.
Ouais, ça va être compliqué. 11 Français, donc on le rappelle sur le top départ à partir de demain. Merci Arthur d'être passé au 32-16.
Merci,
et puis on espère que ce sera un bon tournoi quand même malgré le forfait d'Arthur Fils. Juste une dernière question. Oui, quand même. On mise tous sur Loïs Boisson qui, tu nous rassurais tout à l'heure, elle est un peu plus détendue, Anthony. Mais ouais. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'as croisé ou est-ce qu'on a vu quelques joueurs réagir un petit peu à l'annonce du forfait d'Arthur Fils? Je sais que Gaël Monfils devait jouer avec lui cet après-midi, tu nous le racontais, ouais. Est-ce que dans le club français c'est un peu la grimace là aussi?
Oui, j'en ai pas croisé beaucoup là parce que bon, c'est une journée d'entraînement, donc il y a pas forcément tout le monde au stade, et puis comme il y a pas de match aujourd'hui avant le début du tournoi, il y avait pas beaucoup de staff. Je pense qu'à partir de demain, on verra un petit peu plus l'effet du forfait d'Arthur Fils, notamment dans le clan français et au niveau de la fédération, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur un beau parcours d'Arthur Fils ici Porte d'Auteuil.
Ouais, on rappelle une blessure qui est survenue donc pendant la semaine d'entraînement à Rome où il a déclaré forfait, on le rappelle, au deuxième tour. Merci beaucoup Anthony d'être passé nous voir dans l'intégral sport. 18h47, c'est bientôt la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions féminines. Barcelone face à OL Lyon, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour les Lyonnaises, Morgane Maury?
Non, pas de bonnes nouvelles, on est dans le temps additionnel, 3 minutes annoncées par l'arbitre Madame Olofsson, déjà une minute de passé, mais corner pour les Catalanes de la gauche vers la droite. C'est tiré, c'est mal repris de dos au but par une joueuse du Barça et capté ensuite par Christiane Heller, la gardienne de Lyon. Attention côté Barça parce qu'on a mis en feu Cole, la gardienne, sur plusieurs actions. Elle est en train de monter en pression et d'être redoutable dans la cage, la gardienne barcelonaise. Les deux dernières minutes de cette première période, 0-0 entre le Barça et Lyon dans cette finale de la Ligue des Champions.
Merci Morgan Maury. 18h47 sur RMC, l'intégral sport continue. On va continuer nous de faire la fête avec les Lensois, vainqueurs de la Coupe de France hier soir. C'était la grande parade aujourd'hui dans les rues de Lens. On sera avec Jean Baumel. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Il est 18h50 sur RMC, c'est l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 20h dans ce jour de célébration en rugby. Deuxième titre de Champions Cup d'affilée pour l'Union Bordeaux-Bègles cet après-midi après avoir dominé le Leinster 41-19. Les célébrations continuent à Saint-Mamès. On vous donnera toutes les réactions possibles, bien sûr, en direct de Bilbao avec les joueurs de l'UBB. Grande parade prévue demain à partir de 15h à vivre, bien sûr, sur RMC. La mi-temps en football féminin, la finale de la Ligue des Champions à Oslo, 0-0 à la pause entre le FC Barcelone et OL Lyon, même s'il y a eu un but qui a été annulé pour hors-jeu du côté des Lyonnaises. Et vous avez entendu à l'instant, c'est le top inscription pour un grand jeu sur RMC. Bientôt la Coupe du Monde, vous le savez, c'est la liste des 26. C'est l'alerte en ce moment même. Vous avez donc à partir de maintenant 5 minutes pour envoyer le mot liste au 732-16. Liste au 732-16 et peut-être remporter 10 000 euros. Vous avez bien entendu, 10 000 euros ou bien le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte Lego du trophée. C'est parti, vous avez 5 minutes jusqu'à 18h56. Bonne chance à toutes et à tous. En parlant de football, prenons la direction du Nord avec là aussi une journée historique hier pour le Racing Club de Lens qui est allé décrocher sa première Coupe de France de son histoire. Victoire 3-1 face à Nice. On le disait tout au long de l'après-midi que la nuit avait été courte du côté du Stade de France et surtout du stade Félix Bollaert. Et lui, il a pris part. Il n'en a pas loupé une miette pour RMC. Jean Bommel est avec nous. Salut Jibo.
Salut Alex. Bonjour et bonsoir surtout à toutes et à tous.
La voix, ça va, hein?
Ouais, ça va. Ça bah, écoute, va, tu bravo. Sais, moi, je suis pas rentré dans la nuit. Je suis rentré très tôt ce matin, et c'est plutôt Kevin hein, qui a enchaîné la soirée à Bollaert. Oui. Oui, qui a eu le moment avec les écrans géants et l'arrivée des joueurs à 4h du matin.
Moi, t'as j'ai pas fait la... de chenille, Jibo, du coup.
Non, mais c'est qu'une tradition. Tu sais, des fois dans la marée, que la chenille, c'est quelque chose de sacré. Mais c'était chouette. J'ai vu les images et ils ont enchaîné dans la journée d'ailleurs.
Raconte-nous, ça nage dans le bonheur là, évidemment.
Ah oui, c'est extraordinaire. Alors on a plein de chiffres, hein, mais on est sûr au moins qu'il y avait au moins 40-50 000 personnes dans les rues de Lens pour tout d'abord voir le bus partir de Bollaert, un bus à Impérial où tous les joueurs étaient eh bien sur le haut de ce bus et savouraient donc ces 2 km parcourus dans Lens et d'arriver jusqu'à la mairie, l'hôtel de ville où ils sont descendus du bus et ils ont eh bien retrouvé aussi le public hein, tout le long du parcours. Il y avait des fumigènes, des chants, enfin c'était extraordinaire. Puis sur le podium, on a vu les joueurs, les dirigeants, tout le staff du Racing Club de Lens. On a vu le jeune Kylian Antonio qui a été très bon d'ailleurs hier soir en défense hein, avec une incertitude, avec une blessure, qui chantait la lensoise, donc c'est la Marseillaise version sans ailleurs. On a vu Malang Sarr avec la coupe qui a chantonné également. Pierre Sage qui a tenté de nous faire une chanson la coupe à la maison, et puis Wesley Saïd qui n'avait plus de voix, donc c'était vraiment vraiment réussi, une saison qui se termine magnifiquement bien pour le Racing Club de Lens. Vous imaginez quand même une deuxième place, la Ligue des Champions, un Robin Risser qui est venu tout à l'heure nous voir, qui est meilleur gardien, qui paraît que l'équipe de France, et cette Coupe de France, et puis il y aura le Trophée des Champions aussi hein, contre le PSG cet été. Donc, voilà, il y a c'est que du bonheur pour le Racing Club de Lens. On a d'ailleurs rencontré Tony Edouard qui est venu tout à l'heure nous voir et on lui a demandé forcément qu'est-ce qui restera de cette Coupe de France avec cette génération, parce que forcément c'est historique.
C'est la première Coupe de France pour le club. On est une génération qui va marquer ce club. On a un groupe de joueurs et des gens qui nous entourent exceptionnels. On avait à cœur de finir avec un souvenir tous ensemble pour être liés à vie.
Donc Otton Edouard, un buteur hier soir, meilleur buteur du Racing Club de Lens, lui qui a fait une bonne saison, bonne trouvaille aussi hein, de Pierre Sage et de Jean-Louis Leca. Et puis le président Joseph Ogrouillan qui est aussi venu nous voir, et on a abordé pas mal de sujets, et forcément il y avait de l'émotion. Il voulait rappeler aussi que il s'est rien passé de mal dans cette finale, c'est-à-dire qu'au niveau supporter, il n'y a pas eu de casse, c'est vrai que des fois, on la veille, il y avait eu le problème avec
Oui, contrairement à la veille, c'est ça, oui, voilà.
Et voilà, et il voulait le souligner, et c'est vrai que on peut... C'est vrai que des fois on raconte ce qui se passe pas très bien, mais là c'est vrai que tout s'est bien déroulé au sein de cette finale et pour la suite de la nuit. Donc ça c'est très bien. Et puis on a abordé l'intersaison, parce que c'est vrai que Lens va aller en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui sont partis en fin de contrat. On pense à Adrien Thomasson, à Wesley Saïd entre autres. Donc quelle intersaison du côté du Racing Club de Lens. Et bien nous a répondu à cette question le président Joseph Ogrouillan.
On sait qu'on va avoir une saison compliquée parce que on jouera le championnat et la Champions League. On sait que ça va peser sur notre effectif. Déjà cette année, en fait, on a bien vu, dès qu'on avait un ou deux blessés, on n'avait pas non plus une profondeur de banc incroyable. Il faut qu'on se prépare pour ça. On sait que la dernière fois qu'on était en Champions League, on s'était un peu raté financièrement et donc on veut pas retomber dans ces travers-là.
Voilà, donc ça sera de la sagesse en étant malin comme cette saison pour le président de Lens, qui est aussi abordé. On a la question de Pierre Sage, parce que c'est vrai que son avenir, des fois il y a eu des bruits comme quoi va-t-il rester.
La côte est tellement grimpée en flèche.
Bien sûr, mais en fait il répond tout simplement à la question et la réponse est évidente.
Je pense que Pierre va continuer avec le club. Pierre, comme n'importe quel joueur du Racing Club de Lens, sont des gens qui sont aujourd'hui très convoités. Donc nous les gens savent qu'on fera pas de folie et que on se mettra pas à payer des salaires qui correspondent pas, on va dire, à ce qu'on s'est fixé au niveau du club.
Alors hier soir en conférence de presse, hein, Pierre Sage était venu et bon, il était clair hein, dans sa tête, il est Lensois la saison prochaine, mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Bah, pour lui peut-être une bonne surprise, il y a un très gros club qui vient chercher, bon bah c'est il y aura des négociations. Mais à l'instant T, en tout cas, il a envie de faire la Ligue des Champions avec le Racing Club de Lens. Et Jean-Louis Léquin lui a posé des questions. Est-ce que Lens peut faire mieux la saison prochaine? Il a été clair, non, c'est pas possible.
on peut pas faire mieux.
Sinon, c'est être champion, gagner la coupe. Donc bon, tout est possible. Hein,
on s'interdit pas de rêver du côté de Lens. Voilà. D'ailleurs, je rappelle Gibaud que Pierre Sage sera l'invité de l'After lundi hein, sur RMC. Donc il répondra peut-être lui aussi à cette question justement sur son avenir. Les festivités continuent là encore dans les rues de Lens ou ça commence à retomber un petit peu quand même.
Ah bah je pense qu'il y a beaucoup notamment les joueurs, le staff, il y en a qui ont pas dormi du tout. Robin Risser, hein, il nous l'a avoué, nuit blanche totale. Pour certains, ça a été 2-3 heures de récupération. Et puis, ben, ce soir, ils se voient tous au Stade Bollaert pour un dernier moment tous ensemble avant de partir en vacances et de souffler, de savourer des vacances bien méritées et des vacances courtes pour les internationaux, hein, comme Robin Risser qui va rejoindre Didier Deschamps à l'équipe de France pour des matchs de préparation, notamment contre la Côte d'Ivoire à Nantes. Et il reviendra dans le Nord. Là, ça sera chez le voisin lillois pour affronter l'Irlande du Nord. Mais pour le reste des joueurs, oui, ça va être une grosse bouffée d'oxygène et de souffler vraiment totalement, parce que la saison prochaine, il y aura le Trophée des Champions quand même cet été contre le PSG. Ça sera à suivre. Et puis la Ligue des Champions, un renouvellement d'effectifs, hein, parce qu'il y a des dossiers. Bon, c'est pas Malon Sarr en fin de contrat. Va-t-il rester? Va-t-il partir?
Le travail ne s'arrête jamais.
Il y a beaucoup de... Ah non, Sangaré qui a une cote très élevée. Oui, Jean-Louis Lécart aura du travail, je le disais. Même aujourd'hui. Alors,
même en jour de célébration.
Entre deux coupes de champagne et un verre d'eau, eh ben oui, il y a des sollicitations, il doit répondre. Enfin, c'est le métier de directeur sportif ne s'arrête jamais. Et ici, je peux vous dire que ça travaille très très dur, mais ils sont récompensés de leur travail et ça travaille bien.
Merci beaucoup Jean Baumel de nous avoir
raconté
la suite des festivités lensoises. Bon repos à toi également. Tu me tends la perche J-19 hein, pour le début de la Coupe du Monde. Vous le savez, qui sera à vivre sur RMC Radio officielle avec le dispositif aussi de la radio digitale. Vous aurez droit à la Coupe du Monde à chaque heure, chaque minute sur RMC dans 19 jours maintenant hein, pour certains joueurs qui vont aller la disputer, d'autres qui partent en vacances. Bientôt 19h sur RMC, la suite de l'Intégral Sport. On va parler dans quelques instants Formule 1 puisqu'il y aura les qualifs du Grand Prix du Canada à 22h. On va présenter ces qualifs avec Jean-Luc Roy. On va présenter aussi la finale de la Coupe de France de handball avec Nantes face à Montpellier. Et puis bien sûr on suit la seconde période d'OL Lyon face à Barcelone, 0-0 à la pause dans cette finale de la Ligue des champion féminine de football. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Il est 19h02 sur RMC. Bon début de soirée à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous le rejoignez à l'instant dans l'Intégral Sport. On est ensemble encore une heure où on continue bien sûr d'avoir des réactions depuis San Mamés Bilbao et le sacre de l'Union Bordeaux-Bègles face au Leinster cet après-midi. Deuxième titre de Champions Cup d'affilée pour les Girondins. On suit aussi la finale de la Ligue des Champions féminine entre OL Lyon et Barcelone, 0-0 à la pause. La seconde période va pas tarder à démarrer et puis on va tranquillement se diriger vers la finale de la Coupe de France à Bercy en handball avec Montpellier qui défie Nantes. Clément Brossard va venir dans quelques instants nous présenter cette rencontre qui démarre à 19h30 et puis tout de suite on revient sur la Formule 1. C'est reparti pour l'Intégral Sport. On va débriefer la course sprint du Grand Prix du Canada qui s'est achevée tout à l'heure. Il y a pas mal de choses à dire et surtout présenter les qualifs. Jean-Luc Roy est toujours avec nous. Jean-Luc,
oui, Alex.
Il y a mal de choses à dire sur cette course sprint parce que j'ai envie de la résumer sur revoilà George Russell. Mercedes est toujours là. Mais voilà le début des querelles, surtout entre les deux coéquipiers, Antonelli et George Russell.
Bah écoute, un point du championnat, c'est toujours inévitable. Hein. Quand on a une écurie qui domine, comme c'est le cas de Mercedes depuis le début de la saison, même si on a vu les autres revenir avec tout un tas d'évolutions déjà à Miami et ici, on voit que les McLaren, par exemple, en course, sont vraiment bien dans le coup. Les Ferrari un petit peu derrière, et la Red Bull de Verstappen encore un peu derrière. On était bien rangé d'ailleurs, hein, comme tu l'as vu, sur la grille de départ, avec une première ligne toute grise Mercedes, une deuxième toute papaya évidemment, la troisième toute rouge, et puis la quatrième bah, aux couleurs Red Bull, bien sûr. Donc... oui, là, il y a eu cet incident. Toto Wolff est intervenu à la radio pour essayer de calmer.
Antonelli s'est plaint à la radio plusieurs fois et demandait même une pénalité contre.
Oui,
contre
ça n'allait pas jusque-là, mais il disait il m'a sorti, il m'a pas laissé la place, il m'a mis dehors, carrément. Alors, c'est vrai et pas vrai, là aussi, il faudrait repasser image par image. On l'a revu, hein, cette action. C'était dans le virage numéro 1. Et c'est vrai que déjà, la chicane précédente, la fameuse chicane juste avant les stands, hein, juste avant la ligne d'arrivée, eh bien, il était tout proche à l'extérieur. Il a essayé de tenter un simulacre d'attaque qui n'est pas passé. Donc, Russell est resté devant. Mais il est sorti devant le fameux mur des champions qu'aucun n'a touché, d'ailleurs, pendant cette course. Il faut déjà le dire. Eh bien, il est revenu derrière. Et là, il a tenté une attaque très originale en l'attaquant à droite. Parce que, évidemment, Russell, dans l'ordre de marche, a fermé la bonne trajectoire sur l'escargot. Et je ne sais pas si ça serait passé. Mais là, c'est clair que Russell ne l'a pas laissé la place.
Et le patron, Toto Wolff a dû intervenir donc et aurait dit donc au jeune pilote italien, concentre-toi sur le pilotage, arrête de te plaindre.
C'est exactement ça. Il lui a dit, écoute, on réglera ça plus tard. Pour le moment, essaie de tenir ta place, ce qu'il a réussi à faire, hein, parce que du coup, il s'est retrouvé troisième, parce que évidemment derrière,
il a pris des points. Ouais.
Lando Norris en a profité. Donc là, on va dire que. Mais moi, ce qui me plaît une nouvelle fois chez Antonelli, d'abord chez les deux. Déjà, la réaction de Russell, bah, c'est une réaction d'orgueil. Là, effectivement, tout le monde ne tarie pas d'éloge à juste titre sur Antonelli, le jeune prodige de 19 ans, couvé, choyé par Mercedes et par Toto Wolff en particulier. Eh bien là, on savait que c'était un tournant quelque part du championnat. On en a déjà la preuve. Alors c'est pour ça que les qualifs, tu voulais qu'on en parle, bien évidemment.
À 22h ce soir.
Ça annonce passionnante parce que déjà, est-ce lequel des deux pilotes Mercedes va signer la pole? J'ose le dire. Alors les autres sont pas très loin, hein, mais là je pense que on va tout donner.
Le vainqueur l'année dernière, on rappelle du Grand Prix du Canada.
George Russell l'avait emporté l'an dernier, donc c'est un circuit qui lui convient, qui lui plaît au plan du pilotage. La Mercedes, avec les évolutions qui ont été apportées, se montre très performante. Donc c'est évident que la Russell, il espère aligner le week-end parfait avec deux victoires. Là, il a rabioté, il a grignoté deux petits points au championnat, alors que l'écart était porté à 20 points, hein, par Antonelli. Là, il est revenu effectivement un tout petit peu sur lui en lui grattant deux points. Il est à 18 points. C'est sûr que l'issue demain, ce sera une autre paire de manches, hein. Tu sais très bien. La première place, c'est 25 points. La deuxième, c'est 18. Donc là, c'est énorme. Si jamais, par exemple, Russell l'emportait devant Antonelli, bah là, on aurait compris que le retour est en marche. Seulement, voilà, ils vont pas être tous les deux sur la piste. On a vu qu'en piste, tu sais que là aussi, il y a la manière de gérer les pneumatiques, hein. Cette piste qui est utilisée qu'une fois par an, cette piste sur l'île Notre-Dame, Notre-Dame, je devrais dire.
Quel accent canadien.
On essaie de tabernacle, on essaie de le prendre. Donc cette île artificielle qui a été créée pour le, je vais y arriver. La boule, tu sais, c'était l'exposition universelle, voilà, de 1967. Et oui, ensuite il y a eu les Jeux Olympiques également qui ont été disputés là. Il y avait notamment l'épreuve de canoë kayak et d'aviron qui était sur le lac au milieu. Donc c'est un endroit chargé d'histoire pour les Canadiens. Et ce tracé, donc premier Grand Prix 78 remporté par Gilles Villeneuve. Évidemment, on a donné le nom après la disparition de Gilles, on a donné son nom à ce tracé fantastique que les pilotes adorent. Alors, c'est un tracé à l'ancienne, hein, là aussi avec des murs pas loin, une piste assez étroite, poussiéreuse, donc je viens de le dire. Et donc en course, on va voir de quelle manière les monoplaces et les pilotes exploitent les pneumatiques. Là, pratiquement tout le monde est parti en médium. Je pense que ce sera également le cas demain, mais certains ont tenté le dur. Hein. Il y avait un pilote qui a tenté les pneus durs au départ, donc c'était pas évident. C'était Arvid Lindblad.
Juste avant, on va faire un point sur les Français dans un instant aussi, Jean-Luc, avec toi. On va juste retourner à Oslo puisque la seconde période de la finale de la Ligue des Champions féminine a débuté. La seconde période entre Barcelone et OL Lyon. Morgane Maury, c'est reparti.
Oui, les Barcelonaises ont légèrement mieux mordu dans ce début de deuxième période que les Lyonnaises, mais ça fait que 3 minutes dans cette deuxième partie de la rencontre. Le pressing de Vicky Béchaud, pourquoi pas, pour voler le ballon à la défenseuse barcelonaise. Non, ça repasse par Cole, la portière des Catalanes. 0-0, 50e minute entre le Barça et Lyon. Ce n'est toujours pas décanté dans cette finale de la Ligue des Champions féminine.
Merci Morgane. J'en parlais donc à l'instant. On fait un point quand même sur les forces françaises, oui, sur ce Grand Prix du Canada. Je rappelle, il se déroulera à 22h.
Gerberg bon, s'est arrêté par Cole, le face-à-face de l'attaquante norvégienne dans son stade, dans son pays natal, et c'est stoppé par Cole. Je vous avais dit en première période qu'elle était vraiment montée en pression, et là elle a plongé du bon côté, elle est sur la gauche et d'une belle horizontale elle sort la frappe de l'attaquante lyonnaise. Toujours 0-0 dans cette partie.
Ouais, pas de position dehors, j'ai l'impression, bien lancée, et ça chauffe pour les Lyonnaises qui pourraient peut-être ouvrir enfin le score. Jean-Luc, un point sur nos forces françaises donc, et notamment Hadjar Gasly et Ocon sur ces qualifs qui arrivent.
Eh bien, Isaac Hadjar s'était pas mal qualifié du tout, hein. Il était 8e sur la grille, juste derrière Max Verstappen, avec, et il faut le souligner parce que Miami c'était inquiétant, un écart de performance qui était important, hein, parfois d'une seconde. Là il n'était qu'à 1/10, donc c'est bien. Là, alors à l'inverse, eh bien, c'est Verstappen qui se peinait d'une instabilité de sa monoplace, mais bon, il était vraiment revenu dans le coup, et on avait, comme je l'ai dit, les 4 écuries majeures qui étaient devant, et malheureusement il a connu un problème mécanique. Là, en course, il était à sa place, hein, puis vers le 7e tour on a compris que ça commençait à aller mal. Il a petit à petit rétrogradé, il s'est arrêté au stand, on est intervenu sur la monoplace et on l'a remis en piste pour continuer le développement. Tu sais que dans les week-ends où il y a une sprint race, il y a très peu d'essais, il n'y a qu'une seule séance d'essais libres. Après, c'est les qualifs de la sprint race.
Ça s'enchaîne
et
vite.
Après, ouais. Voilà. Donc, on s'est servi un peu de ces tours-là et on a eu raison pour faire du développement. Apparemment, j'ai regardé, les temps qu'il faisait autour en course étaient plutôt corrects. Hein. Donc, ça laisse de l'espoir pour demain et pour les qualifs, parce que je pense que c'était un problème ponctuel qui a été résolu assez rapidement. On a mis 3 tours à le résoudre. Du côté des autres Français, eh bien, Esteban Ocon est parti 14e, arrivé 13e. Bon, c'est correct, mais sans plus, hein, puisque Hadjar, on vient de le voir, lui a rétrogradé. Et puis Gasly, du côté de Pierre Gasly, bah, malheureusement, parti 19e sur la grille et arrivé 20e. Bon, là, dur, c'est plus difficile. Ouais. Surtout que, malheureusement, pour lui, entre guillemets, à l'inverse, eh bien, Colapinto fait des étincelles parce qu'il est parti 13e, il termine 9e, c'est-à-dire aux portes des points. Colapinto, il a trouvé le mode d'emploi, hein, maintenant. Donc là aussi, bon, c'est pas la vélocité de Pierre qui est en jeu. Après, c'est un enchaînement, tu sais, de circonstances, mais ça s'est mal passé pour lui, ça s'est plutôt bien passé pour Colapinto. Et Colapinto, maintenant, là aussi, on l'a assez détruit parfois lors de courses complètement erratique l'an dernier, bah il faut dire que là, cette année, il fait le boulot, hein, vraiment plutôt bien.
Les deux grands rendez-vous donc à 22h tout à l'heure pour, oui, les qualifs donc du Grand Prix du Canada, et le Grand Prix lui sera demain soir à 22h avec monsieur Jean-Luc Roy, bien sûr. Merci beaucoup.
Mais c'est
Jean-Luc,
toujours un plaisir.
Et à tout à l'heure, pour les qualifs sur RMC. On refait un petit point à Oslo dans ce début de seconde période bien animé. Morgane Mori entre Barcelone et Lyon en finale de Ligue des Champions féminines.
C'est la 53e minute et peut-être une occasion pour les Barcelonaises. Elles sont dans la moitié de terrain lyonnaise. Elles ont hérité d'un bon coup de pied arrêté, Alex, ici sur le de la droite vers la gauche de la cage de Christian Endler. Forcément, les Lyonnaises, Wendy Renard en tête, se replient dans la surface de réparation pour essayer de dégager ce corner. Elles ont aussi des qualités sur les coups de pied arrêtés, les Barcelonaises. Au tir pour les Barcelonaises, c'est Mapi Leon avec ses tatouages sur ce corner tiré de la droite vers la gauche. Championne d'Europe, la meilleure équipe des années 2020. C'est très très long, ça dépasse largement le deuxième poteau. Ça revient vers au niveau des 6 mètres, mais il y a un coup de sifflet de Madame Olofsson, l'arbitre. 53e minute, Barça-Lyon 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. 53e minute.
Merci Morgane Mori. On suit ça bien sûr, tu nous interromps à tout moment s'il se passe quelque chose du côté d'Oslo. On est vraiment dans un jour de finale après l'UBB, bien sûr, vainqueur du Leinster en Champions Cup cet après-midi avec OL Lyon en ce moment même face à Barcelone. Il y a une autre finale qui se dispute du côté de l'Accor Arena ce soir. C'est à 19h30 avec du handball et c'est la finale de la Coupe de France avec Montpellier qui affronte Nantes. Clément Brossard est à Bercy. Salut Clément.
Salut Alex, salut tout le monde. Encore un club français qui va gagner une finale aujourd'hui.
Incroyable, hein, on est du bon côté.
Alors on n'a pas de doute, aucun doute.
Le tenant du titre, pour résumer très rapidement cette finale, le tenant du titre face à sa victoire, tout simplement Montpellier face à Nantes. Hein.
Exactement, et vous l'entendez derrière moi, déjà beaucoup d'ambiance avec notamment 750 supporters montpelliérains qui ont fait le déplacement, mais en face c'est un mur nantais qui se dresse avec 2000 Nantais, Ligériens qui sont venus ici à Bercy, et tu as raison de le souligner, Montpellier est le spécialiste de la compétition, vise une 15e Coupe de France et ne gagne plus face au H depuis 2018. Ouais, exactement, c'est énorme, c'est immense. Et Nantes qui aura peut-être un coup à jouer aujourd'hui pour essayer de détrôner cette équipe qui réussit tellement bien dans cette Coupe de France. Mais Nantes a un calendrier énorme parce qu'il joue aujourd'hui à Bercy, à l'Accor Arena, et il restera à Paris, à la Maison du Handball de Créteil, parce que dans 4 jours il y aura une autre finale face au Paris Saint-Germain pour essayer d'aller glaner son premier titre de champion de France de son histoire. Donc c'est presque un préparatif pour cette formation nantaise qui a un objectif prioritaire.
Et l'ouverture du score sur ce compte des Barcelonaises, 1-0 pour les Catalanes, contre-attaque parfaitement menée, et à la fin c'est Eva Pajor, la Polonaise, qui vient tromper d'une frappe croisée Christiane Endler, la gardienne de Lyon. 1-0 pour le Barça face aux OL Lyon. 56e minute à Oslo.
1-0 donc pour les Catalanes face à Lyon, c'est la mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est que le début de la seconde période. Il y a encore le temps de réagir du côté des Lyonnaises, on l'espère en tout cas. Merci Morgan, 1-0 pour Barcelone face à Lyon, donc en finale de la Ligue des Champions féminines. Clément Brossard, on revient avec toi à Bercy avec cette finale entre Montpellier et Nantes. Les Nantais d'ailleurs, tiens, qui seront privés de leur arrière-gauche et surtout leader de la défense, Thibaut Brier. Ça peut peser aussi sur la rencontre.
Touché à une cuisse, Thibaut Brier, face à la République tchèque avec les Bleus, c'était dimanche dernier. On nous dit qu'il est quand même un petit peu mieux. Physiquement, on va pas prendre de risques, on va le préserver surtout pour le match face au Paris Saint-Germain. Il y a Julien Bosse aussi qui était incertain, mais il est bien sur la feuille de match aujourd'hui, donc il sera présent pour ces Nantais qui font peur, hein, quand même. C'est la 4e finale en 5 ans de Coupe de France pour Nantes, qui certes joue face aux spécialistes de la discipline et de la compétition, mais ça va nous offrir à coup sûr une très très belle rencontre. Montpellier qui, on le rappelle, a sorti le Paris Saint-Germain notamment en demi-finale, et c'est la 3e fois que ces deux clubs-là s'affrontent en finale de Coupe de France.
Coup d'envoi dans une quinzaine de minutes maintenant, l'ambiance qui continue de monter à Bercy, mais on a quand même un mot aussi pour ce qui va se passer demain après-midi, puisqu'il y aura la finale de la Coupe de France féminine, ces week-ends de finale à Bercy, qui opposera donc Metz à Dijon. Et alors là, en termes de storytelling, Clément, c'est assez énorme, puisque Metz, c'est le plus gros palmarès possible du handball et féminin, et de loin, face à Dijon qui sort d'une victoire en Coupe d'Europe. Alors pas la C1, la C2 certes, mais qui sort gonflé à bloc.
Ouais, alors le favori évidemment, comme à chaque fois dans le handball français féminin, c'est Metz, 27 titres de championne, dont 9 sur les 10 dernières années. Voilà, ça place une équipe à elle-même, même si elles avaient fini première égalité en 2020. Il y a 13 Coupes de France aussi, elles sont intouchables depuis 4 ans dans la compétition, les Messines, les jaunes et bleus. Mais en face, tu as raison de le souligner, les filles de Clément Alcacer qui sont dans la dynamique d'une victoire en Ligue Européenne, comme on l'appelle, la deuxième Coupe d'Europe. C'était sa première Coupe d'Europe à domicile, chez elle, donc, après avoir été menée de 9 buts qui plus est en finale. Et donc on peut se dire que les Dijonnaises, portées comme ça par un vent de confiance, peuvent mettre en difficulté les Messines, qui avaient été finalistes en 2024, les Dijonnaises, mais qui n'ont jamais remporté la Coupe de France, et qui vont avoir le petit espoir de réaliser l'exploit demain dans cette même salle de Bercy, qui sera encore une fois comble.
Et les Messines devront se méfier, parce que quand Dijon est mené par exemple même de 9 buts, ça veut rien dire, hein. Elles peuvent remonter.
Elles
l'ont fait justement dans cette Ligue Européenne, remontée extraordinaire face justement à leur adversaire, les Dijonnaises, qui ont été assez incroyables pour décrocher donc cette première Coupe d'Europe à domicile. Donc ça sera le rendez-vous demain, Metz face à Dijon en finale de la Coupe de France féminine, week-end de finale en handball, et le coup d'envoi donc de Montpellier-Nantes dans quelques minutes avec toi, Clément. Merci beaucoup, on revient te voir pour le coup d'envoi bien sûr de ce Montpellier-Nantes. À tout de suite en direct de Bercy. On retourne au football avec la finale de la Ligue des Champions féminine, bientôt l'heure de jeu. Barcelone qui mène face aux Lyonnaises, Morgan Maury.
Oui, il y a une petite alerte pour les Barcelonaises, on a cru une blessure à la jambe gauche de Cole, la gardienne, qui est vraiment excellente dans cette partie, mais elle a pu se relever, et c'est elle qui dégage à l'instant le ballon pour les Lyonnaises. Lily Johannes, on est à 30 mètres de la cage de Barcelone, pourquoi pas Ada Egerbert sur le côté droit avec Vicky Béchaud, ballon qui est touché par son adversaire et envoyé
envoyé en touche, touche pour les Lyonnaises, pratiquement à côté.
Elle est bien placée,
photo de corner, Alex.
Ouais, ouais, on va la suivre.
La touche pour les Lyonnaises. On va chercher directement un ballon dans la surface de réparation, mais malheureusement, les Barcelonaises s'interposent. Qui c'est qui récupère le ballon à 40 mètres de la cage? C'est Wendy Renard, mais a fait un mauvais contrôle. Et là, il y a un 2 contre 3 pour les Barcelonaises avec Pajor, Putellas. On est sur le côté 3. Heureusement, on va pas trop vite dans les transmissions et ça permet aux Lyonnaises de se replier. On est à 25 mètres de la cage. Putellas qui a une tentative de frappe, elle ne la prend pas. Elle la met dans la profondeur pour une partenaire. Et c'est capté par Endler, la portière de Lyon. 60e minute, le Barça mène 1-0 grâce à une réalisation de Pajor, 10e but en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison pour la soulier d'or européenne de l'année 2025.
1-0 pour le Barça, oui. Morgan, mais rassure-nous, dans cette seconde période il y a des occasions côté lyonnaise, on arrive à ouvrir le jeu.
Ouais, pourquoi pas à l'instant là sur ce ballon, sur ce déboulé sur le côté gauche pour les Lyonnaises avec Lily Johannes, encore une fois Ip sur le côté gauche avec Melchi Dumorné qui peut pourquoi pas centrer, ça va au deuxième poteau, là aussi c'est une tête barcelonaise qui dégage ce ballon, ça revient toujours à la limite de la surface de réparation sur le côté droit avec Ashley Laurent, ça combine avec Lily Johannes, la talonnade et la frappe de Vicky Béchot, ça touche le poteau et ça va sortir corner pour Lyon. Ça a été dévié par Cole du bout des doigts, c'était très bien fait cette combinaison avec Vicky Béchot.
Allez, on va suivre le corner avec toi, Morgan. Ça se précise côté lyonnais.
Oui, pourquoi pas marquer sur coup de pied arrêté. Elles sont extrêmement fortes, les Lyonnaises, dans cet exercice. La frappe de Vicky Béchot du gauche, touchée par Cole. Est-ce que ça a touché le poteau ou est-ce que ça rentrait dans les cages? Difficile à dire pour les Lyonnaises. Le corner à venir de la droite vers la gauche. Il va probablement être tapé par Selma Bacha, dont c'est la spécialité. 61e minute, toujours cet avantage d'un but pour le Barça. C'est tiré loin au deuxième poteau. Il y a une tête lyonnaise, ça revient vers Ips qui ne peut pas contrôler le ballon, on revient vers l'arrière et une frappe au-dessus de la barre pour Lyon, frappe de Brandt, c'est largement au-dessus de la barre transversale de Barcelone, 61e minute, toujours cet avantage, 1-0 pour le Barça face à Lyon en finale de la Ligue des Champions.
Ouais, ça pousse, c'est dommage, elles ne sont pas très loin, il n'y a qu'un but d'écart en faveur des Catalanes pour l'instant, on a passé l'heure de jeu, mais on sent que ces Lyonnaises se rapprochent peut-être d'une égalisation, on le souhaite en tout cas, 19h20 sur AMC, c'est l'Intégral Sport. On a encore plein d'autres dossiers à ouvrir, notamment en basket et en foot, puisqu'il y aura la dernière de la Liga ce soir, dernière journée, et le Real Madrid qui accueille l'Athletic Bilbao. On fermera un petit peu la saison madrilène, on fera un petit bilan avec Edgar Grollo, savoir qui joue ce soir, qui ne joue pas, bien sûr. Ça sera dans une vingtaine de minutes. On commence à opérer des changements aussi dans cette finale de Ligue des Champions féminines, Morgan. Je vois que ça commence à aller chercher un petit peu de force vive sur le banc.
Oui, la Norvégienne Graham Hansen du Barça sort, remplacée par Claudia Pina. Le Lyon qui, dans cette phase de match à élimination directe de Ligue des Champions, a montré du caractère. Alors, des matchs allés perdus et des victoires au match retour. Là, il n'y a pas de match retour. Il faut réagir dans les 30 dernières minutes. 1-0 pour le Barça face à l'OL Lyon.
Merci Morgan Mori. On revient te voir dans quelques instants. On continue aussi de célébrer le deuxième titre en Champions Cup de l'Union Bordeaux-Bègles cet après-midi face au Leinster, 41-19. Deuxième sacre européen pour les Girondins et les supporters continuent de fêter ça avec nous sur RMC, comme Hervé qui nous appelle au 32-16. Salut Hervé.
Salut à tous.
En grande forme Hervé, j'imagine, qui
incroyable.
Était au stade.
Ah ouais, c'est ça, le stade exceptionnel.
Extraordinaire.
Hier soir, et puis là l'UBB qui, après avoir battu le champion de France, le champion d'Angleterre, le champion d'Écosse, finit en finale contre le champion d'Irlande. Donc on est bien officiellement champion d'Europe, quoi, avec un titre mérité et une équipe qui est capable de monter le curseur quand vraiment il faut faire des matchs de haut niveau. On était un peu déçus la semaine dernière contre Perpignan, mais aujourd'hui on voit quand même qu'on a une équipe qui a du talent, du caractère et qui sait gagner. Donc voilà, la fin de saison est encore difficile, mais on savoure parce que vraiment cet après-midi c'était une belle page de l'UBB. Belle page de l'UBB pour les supporters, pour le club. Les Girondins étaient très nombreux, les amoureux du rugby aussi, de divers pays. Entre parenthèses, petite leçon de savoir-vivre pour les footeux qui mettent un peu le bazar quand il le faut pas, mais on s'est régalé. Voilà.
Est-ce qu'on sera au rendez-vous de la parade demain à 15h dans les rues de Bordeaux, Hervé?
Ah, on va laisser les Girondins qui n'ont pas pu se déplacer, parce que malgré tout, il y a eu beaucoup de gens qui ont été frustrés de ne pas avoir beaucoup de place. Donc voilà, on sera là par la pensée dimanche prochain, surtout parce qu'il va falloir reprendre le top 14.
Et oui, la saison n'est pas finie.
Eh oui, c'est ça. Et puis fêter, j'espère, à la fois le titre et puis à la fois une qualification contre Clermont dans 15 jours. Mais je pense que les joueurs sont conscients qu'il va falloir être bondé la semaine prochaine, mais le peuple bordelais va fêter ça demain, c'est sûr.
Lequel de ces deux titres en Champions Cup était le plus savoureux?
Très honnêtement, le premier a été dur et donc forcément je pense que le premier est toujours une saveur spéciale. Mais ce qui fait plaisir là, c'est que c'est difficile des fois de confirmer. Et je trouve que cette équipe confirme. J'espère que si c'est pas cette année, parce que ça risque quand même d'être dur, il y a de la concurrence, mais que l'année prochaine, que cette génération va pouvoir aller au bout en top 14, parce que il y a du talent, il y a de la certitude, et puis il y a des victoires, donc on espère à un moment donné soulever le bout de bois aussi, quoi. Voilà.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, Hervé.
Le pour les supporters bordelais, qui, je veux dire, sont derrière un club, et le travail de Laurent Marty depuis des années, et aujourd'hui, tous les gens sont récompensés, quoi. C'est magnifique.
Merci beaucoup, Hervé, d'être venu partager votre joie après ce titre de l'UBB sur RMC. Très bonne soirée à vous et bon retour également à Bordeaux. Tiens, en parlant de cette finale, justement, on se précipite en conférence de presse d'après match, d'après finale, d'après titre. Et on rejoint la conf avec notamment Maxime Lucu, élu homme du match, Yannick Bru, bien sûr, le coach, Jefferson Poirot. Ils sont tous présents. On les écoute sur RMC.
Depuis la première journée après Toria, jusque à cette finale, et notamment la première mi-temps, le parcours a été quasi parfait sur leur implication, mais aussi sur leurs efforts de tout le groupe, de tout le club, de la direction jusqu'aux administratifs. On a tout mieux géré que l'année dernière, la partie logistique. On a cherché à s'améliorer sur tous les petits détails, et franchement, que ce soit la phase de poule ou le quart de finale face à Toulouse, la demi-finale face au champion d'Angleterre, la finale face au Leicester, en tout point de vue, cette campagne européenne, elle nous rend très fiers du parcours des joueurs. Franchement, il faut savoir l'apprécier. Je pense qu'on ne le refera jamais. Je pense que les joueurs ne le referont jamais, un parcours comme ça. Mais là, ils l'ont fait. Après, ils sont tellement un peu spéciaux qu'ils peuvent me faire mentir. Mais je sais que ça sera quasiment impossible de remettre autant d'intensité sur la campagne de Champions Cup la saison prochaine. Donc, bravo à eux, vraiment à eux. Et j'espère qu'ils vont profiter comme ils l'ont mérité.
Le coach de l'UBB, Yannick Bru, en direct sur RMC.
On a senti une fusion incroyable avec le public, même les supporters irlandais, ils n'en revenaient pas. Voilà, est-ce qu'on ressent effectivement cette communion avec le public?
Oui, je pense qu'on est assez chanceux à Bordeaux. Là. C'est vrai que depuis plusieurs saisons, on a un public qui est vraiment derrière nous. J'ai eu la sensation sur notre arrivée en bus que quelque chose s'est passé. C'était incroyable. Le trajet de l'hôtel jusqu'au stade et l'arrivée devant le stade, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Ce matin, on a fait aussi le petit réveil musculaire entouré de nos supporters. C'est quelque chose d'assez particulier. On savait pas trop si ça allait nous perturber ou nous mettre dedans, mais bon, visiblement, ça nous a mis dedans. Et c'est vrai qu'on a un lien avec ce public qui dépasse, je pense, le rugby et qui dépasse juste le terrain. Je pense que voilà, on est très proche de notre public. On a toujours de l'affection pour eux, on a toujours un geste pour eux, on reste avec eux sur la fin des matchs. Mais c'est aussi parce que pendant 80 minutes chaque week-end, qu'on gagne ou qu'on perde, on a ce public qui nous pousse. Et c'est vrai que la fusion, elle est juste normale, en fait. C'est vraiment le club qui est comme ça. Le club s'est construit comme ça. Et aujourd'hui, c'est très plaisant d'avoir les fruits et de pouvoir leur offrir des titres.
Jefferson Poirot, le pilier de l'Union Bordeaux-Bègles en conférence de presse qu'on écoute en ce moment en direct sur AMC après le titre de l'UBB en Champions Cup face au Leicester.
Peut-être un mot sur la première période. Vu des tribunes, on a l'impression que on était quasiment proche de la perfection. Voilà, je pourrais avoir votre commentaire sur cette première période.
Non, c'est. On avait parlé dans la semaine d'essayer de faire un match parfait pour ce dernier. Je crois qu'effectivement que la première mi-temps, en termes d'effort, en termes de connexion entre les joueurs, et on savait que c'était important parce que le Leicester allait nous proposer un jeu très structuré, basé beaucoup sur l'organisation, les efforts. On connaît bien leur entraîneur sud-africain, donc voilà, sur le plan du plan de marche qui était surtout concerné sur les duels aériens, le travail au sol, la qualité défensive, franchement les efforts ont été magnifiques sur la première mi-temps, et comme souvent quand on fait les efforts, on a les bons rebonds, et on a des petits coups de pouce du destin parce qu'on a aussi été chanceux sur la première mi-temps. Donc c'est vrai qu'on rentre au vestiaire avec un discours difficile à tenir parce que on sent que l'équipe est en train de faire un match magnifique. Et comme souvent, quand on fait un match magnifique, il se passe ce qui s'est passé.
Et ça fait 2-0 pour le Barça face à Lyon.
De presse, Morgane Mori, finale de Ligue des Champions féminine de football.
Aïe, 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 20 minutes encore à jouer. Ça fait 2-0 pour le Barça face à Lyon. Une superbe remontée de balle, 2 contre 2. Le ballon est allé vers la gauche, puis vers la droite au deuxième poteau. La remise au niveau des 6 mètres pour Eva Pajor et la polonaise pour la deuxième fois dans le match qui trompe Christian Edler. Ça fait 2-0 pour le Barça face à Lyon. Et la mine fermée, elle tape de rage dans le ballon. Wendy Renard, la capitaine lyonnaise, 20 minutes pour remonter, 2 buts pour les Lyonnaises. Ça va être très compliqué face au Barça.
La mission se complique pour les Lyonnaises en finale de la Ligue des Champions féminine, donc face au Barça. On le disait, c'est un choc au sommet de l'Europe et pour l'instant c'est en train de tourner en faveur des Catalanes. Merci Morgane, on repart au rugby. On écoutait ensemble en direct la conférence de presse d'après match de l'UBB, victorieux du Leinster cet après-midi en Champions Cup.
Et on avait dit que peut-être qu'il ne fallait pas jouer trop sur les extérieurs et dans le dos dans un premier temps, ce qu'on adore faire, mais qu'il fallait être un peu plus besogneux sur la première mi-temps. Et on a vu que sur les premières collisions, notamment les cellules après le 9 et le 10, sans faire reculer le ballon, on arrivait à prendre la ligne d'avantage. Les soutiens offensifs étaient vraiment proches et on avait ciblé ça depuis le début de la semaine. Je crois que c'est la première fois qu'on arrive à faire autant de aussi bien en tout cas ces phases-là et avoir des solutions, notamment en étant patient. Des fois on va chercher beaucoup les extérieurs, vous nous connaissez, et on s'est fait contrer par moment. Le Leinster avait voulu faire cette rush défense, et pour contrer cette rush défense il fallait attaquer sur les épaules intérieures et les épaules faibles, donc on a essayé de le faire et après petit à petit aussi avec l'occupation et le fait d'avoir joué très haut et d'avoir défendu je crois qu'une fois ou deux dans les 22 en première mi-temps, ça nous a permis de prendre le score et d'avancer et de se mettre en confiance et surtout de les faire perdre un petit peu leurs émotions, et c'est ça qu'on a voulu chercher quoi.
Oui, par ici. Mettre quand même un 35-0 au Leinster en 30 minutes, c'est pas anodin et c'est assez rare. Comment vous expliquez quand même ces 35 points
On l'a dit. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts, Max a parlé, beaucoup d'organisation. Malgré tout, si vraiment on est dans le détail du détail, on a un premier lancement de jeu où on sort un peu du plan.
Et on écoute une dernière réponse de Yannick Bruy, le coach de l'UBB.
On fait un en avant, on a une première sortie de camp, on fait un mort avec nos avants. On se fait secouer sur le lift avant, Jeff, et il y a un turnover qui débouche sur la première possession de Leicester. On démarre le match à 0-7. Donc tout n'a pas été parfait, mais le match parfait n'existe pas, on le sait. Mais après, c'est vrai que, comme dit Max, tout le monde est rentré dans le plan. On a été très frontal au début. On a gagné les collisions, on s'est gagné le droit d'aller jouer sur les extérieurs. Et c'est vrai qu'on a senti que le Leicester était un peu acculé, d'autant plus que on était un peu dominant devant. Plusieurs mêlées, ils étaient au point de rupture. Et on sentait que quand on rentrait dans leurs 30 mètres, on pouvait marquer. Et la confiance s'est agrandie petit à petit grâce à ces collisions maîtrisées. Et après, on a un peu de chance aussi, comme souvent, quand on provoque les choses, on a des interceptions, des rebonds favorables. Mais quand on gagne les rebonds, c'est pas le hasard non plus. On savait que le Leinster était maître dans l'art de gagner les rebonds autour des duels aériens. Et je crois qu'on les a tous gagnés aujourd'hui. C'est juste qu'il y avait une envie, une intensité physique qui était un peu supérieure chez nous. Et après, le destin t'aide un peu, et peut-être que 35-0, c'est trop cher payé.
Yannick Bru, Maxime Lucu, Jefferson Poirot, des héros bordelais cet après-midi en conférence de presse après la victoire en Champions Cup face au Leinster. Le doublé, bien sûr, on le rappelle, après la victoire face à Northampton la saison passée. L'UBB qui rentre dans un cercle très fermé désormais. 6 équipes ont réussi à gagner seulement 2 titres consécutifs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Leicester, c'était Leicester en 2000-2001, le Leinster en 2011-2012, Toulon bien bien sûr, le club français trois années de suite, 2013 à 2015, les Saracens 2016-2017 et La Rochelle 2022-2023, et donc maintenant l'Union Bordeaux-Bègles 2025-2026. Louis Bielbiaré élu joueur de la compétition, et donc succès total pour les Girondins, 41 à 19. La grande parade demain, ça sera à Bordeaux, à vivre en direct sur RMC, bien sûr, toutes les festivités et le trophée présenté à la ville de Bordeaux, ça sera à vivre sur RMC. Bravo encore à l'UBB donc, qui remporte la Champions Cup pour la deuxième année de suite. D'autres finales, c'est en ce moment même, direction la Coupe de France en handball. La finale, c'est parti entre Montpellier et Nantes du côté de Bercy. Clément Brossard.
Parti depuis deux minutes en effet, et les Montpelliérains qui viennent de reprendre l'avantage à l'instant avec un bon tir de Diego Simonet qui a répondu à Brian Monte dos Santos qui avait inscrit le premier but montpelliérain. Ils sont assez costauds sur ce début de rencontre, les Héroltais. Ça leur permet de récupérer la possession à deux partout désormais. Petite info aussi pour vous dire que Valentin Porte, qui avait été, souvenez-vous, si vous n'avez pas vu l'image, en tout cas, pour les âmes sensibles, je vous conseille pas d'aller la voir, hein, mais triple fracture du nez, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, notamment en Coupe d'Europe. On se demandait s'il allait jouer avec un masque ou non. Il est bien présent, son masque, le valeureux guerrier montpelliérain Valentin Porte, présent dans ce début de rencontre.
Katoto, Katoto, c'est arrêté, c'est arrêté, c'est arrêté. Magnifique passe de Melchi du Mornay pour Marie-Antoinette Katoto, et ça a été sorti par Cole. Aïe, 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 il fallait pas rater cette occasion. Encore un quart d'heure et 2-0 pour le Barça face à Lyon.
On n'y est pas loin, on n'y est pas loin pour les Lyonnaises en finale de la Ligue des Champions féminine de foot. La finale de la Coupe de France en handball qui est partie entre Montpellier et Nantes. Montpellier qui mène 3-2, ça joue depuis déjà deux petites minutes. Et bien sûr, sur RMC, l'Intégral Sport continue encore une petite demi-heure. On va se diriger vers l'Espagne dans un instant avec Edgar Grolot. On va faire le point sur la fin de saison en Liga. Ce sont les derniers matchs ce soir. Le Real Madrid notamment reçoit l'Athletic Bilbao. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
19h37 sur RMC, c'est l'Intégral Sport. On est ensemble encore une vingtaine de minutes avant Génération After avec François Pinet. Beaucoup de live à suivre, notamment la finale de la Ligue des Champions féminine de football entre Barcelone et Lyon, et toujours à l'avantage des Catalanes, Morgan Mori.
Oui, elles ont le ballon, elles sont dans la moitié de terrain lyonnaise, même juste à côté du poteau de corner des joueuses de Michel Kang. Entrée de Aitana Bonmati, la ballon d'or l'an passé. 79e minute, 2-0 pour le Barça face à Lyon. Il ne fallait pas rater ce face-à-face tout à l'heure pour l'entrante lyonnaise, Chawinga face à Cole. Touche à venir pour les Catalanes avec Esme Bux qui met directement le ballon dans la surface de réparation. Les deux au but. Et Pina qui tape, et on plonge bien vers sa droite pour Christian Endler, juste à côté de son poteau. Et elle prend le ballon à deux mains et relance tout de suite d'un grand coup de pied justement vers son attaquant Chawinga qui est au défi avec une Barcelonaise, mais ballon perdu par la Lyonnaise. 80e minute, 2-0 pour le Barça face à Lyon. C'était le score déjà il y a deux ans lors de la finale perdue par les Lyonnaises face aux Barcelonaises, Alex.
Merci Morgan Mori. Jour de finale également en handball, finale de la Coupe de France. C'est en ce moment même à Bercy, Montpellier face à Nantes, Clément Brossard.
7 minutes de jeu, avantage Montpellier pour le moment, 5-4 pour les Héroltais. Emeric Mine vient de prendre 2 minutes pour une défense illicite sur Valentin Porte notamment, et c'est Rémi Desbonnets cette fois qui vient marquer de son propre but après un premier arrêt. Le petit break, tout petit break fait dans ce début de rencontre après 7 minutes de jeu. Montpellier mène 6-4.
Merci Clément. Allez, direction maintenant aux abords de Santiago Bernabéu. Dernier match de la saison, 38e journée en Liga. Ce soir, tous les clubs jouent à 21h et le Real Madrid reçoit l'Athletic Bilbao. On est avec notre drôle de dame en Espagne, Edgar Grolot. Salut Edgar.
Salut Alex, salut à toutes et à tous.
C'est la dernière sortie de la saison en Liga pour toi. Ce soir, le Real Madrid qui reçoit l'Athletic Bilbao. Au niveau des enjeux, Edgar, forcément, c'est assez mince.
Réduit. Puisque
réduit, on peut le dire. Le Real qui finira, quoi qu'il arrive, deuxième.
Il y a un énorme enjeu. C'est terminer la saison, parce que je peux vous dire, si à Madrid, les supporters, ils en ont marre. Les journalistes aussi, parce que ça ne s'est pas arrêté toute la saison. C'est vrai que ça a été une saison très, très particulière quand même pour les Madrilènes.
La fin du feuilleton, justement, ils veulent bien finir pour la dernière à la maison, les joueurs du Real. Est-ce qu'on a des indications sur la compo, la dernière d'Alvaro Arbeloa?
Oui. Oui, et c'est pas seulement la dernière d'Alvaro Arbeloa. Ça, c'est officiel. Il l'a officialisé en conférence de presse hier. Et c'est aussi officiel pour deux joueurs qui seront titulaires ce soir. Dani Carvajal, qui terminera sa carrière au Real Madrid, et David Alaba. Carvajal qui aura le brassard de capitaine, et donc Alaba qui a, on va dire, ce cadeau de terminer quand même en tant que titulaire. La compo du Real, je vous la donne avec Courtois dans les cages. Carvajal donc, Asensio, Alaba et Carreras en défense. Au milieu de terrain, Valverde, Bellingham et Thiago Pitarch. Ça veut dire que Aurélien Tchouaméni est laissé au repos hein, sur ce début de match. Peut-être une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. En tout cas, moins de risques de blessure pour lui, même s'il pourrait rentrer en cours de jeu. Et devant, Franco Mastantono, Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle quand même, parce que Kylian Mbappé nous avait dit qu'il allait travailler pour être titulaire et être aussi bon que Mastantono et Gonzalo Garcia. Et ben, il se retrouve récompensé puisqu'il est titulaire à leur côté.
Il est titulaire pour la dernière, donc le Français Kylian Mbappé, et on imagine derrière qu'il soufflera très rapidement avant de rejoindre les Bleus pour la Coupe du Monde.
Oui, c'est ça. Là, ils vont avoir quelques jours, et puis très rapidement, en fin de semaine prochaine, juste avant le week-end, ils vont avoir rendez-vous à Clairefontaine, et ils vont se retrouver avec les autres joueurs. Alors pas tous, évidemment, puisque certains ont toujours des rendez-vous, notamment les joueurs du Paris Saint-Germain ou William Saliba avec Arsenal, avec cette finale de Ligue des Champions le week-end prochain. Mais ça va être le début déjà de l'époque équipe de France, de la préparation pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on a tous compris que pour Kylian Mbappé, la priorité aujourd'hui, et déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, la priorité, c'est la Coupe du Monde. On va enfin entrer dans cette période, on va dire, le Kylian Time, Alex, parce qu'on sait que c'est un joueur de Coupe du Monde. Il l'a montré sur ces deux dernières, et c'est un tournant de sa carrière aussi, de montrer qu'il est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, non pas seulement par les stats, mais aussi par le fait d'essayer de faire gagner son équipe. Ça va être son objectif, évidemment.
Là où ça s'arrête pour le terrain ce soir, Edgar, ça ne s'arrêtera pas en coulisses en revanche, et ça pourrait aussi beaucoup changer la donne bien sûr par rapport à l'ombre de José Mourinho qui plane sur le banc madrilène la saison prochaine. C'est une histoire d'élection finalement.
Oui, exactement. Alors, ce qui a été officialisé tout à l'heure, c'est qu'Enrique Riquelme, un homme d'affaires espagnol, va officiellement candidater pour être président du Real Madrid, et que donc, pour la première fois depuis 2006, on pourrait avoir une vraie élection au Real Madrid, parce qu'à chaque fois, depuis cette date-là, le candidat s'était présenté seul. Hein,
et Florentino Pérez risque vraiment sa place face à ce candidat ?
Alors, la difficulté, c'est la temporalité. Parce que il était quand même dans l'ombre et très peu connu médiatiquement, même si ça faisait quelques années qu'on savait que c'était quelqu'un qui pouvait préparer une candidature. C'est pas, j'ai envie de dire, un opposant qui parle pendant 4 ans tout le temps et qui est toujours en train de parler, de critiquer la direction, comme on peut l'avoir avec un Victor Font, par exemple, au Barça, qui lui s'est présenté face à Laporta avec déjà énormément de socios qui le connaissait. Enrique Riquelme, c'est un petit peu différent, mais sa candidature, a priori, c'est vraiment du sérieux. Il a les moyens déjà, c'est vraiment un homme d'affaires qui a fait succès avec ses entreprises, avec ses projets. Il a le soutien de certains anciens joueurs. Pour vous dire, il a posté un message sur Instagram il y a une heure qui a été liké par exemple par Iker Casillas. Il est proche de certains autres anciens joueurs, à voir après s'ils participeront vraiment à sa candidature. Mais en tout cas, ça peut être un adversaire sérieux. Maintenant, la difficulté, c'est effectivement ce timing qui est quand même serré pour rattraper le déficit de médiatisation et de sérieux, en tout cas de légitimité par rapport à Florentino Pérez. C'est ça qui est difficile. Lui, il pensait encore avoir 3 ans pour préparer sa candidature, oui. et il pensait être dans un timing beaucoup plus normal où il allait pouvoir construire tout ça au fil des années. Là, il est un petit peu presque pris au dépourvu, mais quand même en présentant une candidature très sérieuse. Ça va être intéressant à suivre, et lui, il aimerait bien débattre face à Florentino Pérez.
Parfait, merci beaucoup Edgar Grolot. Coup d'envoi de ce Real Madrid Athletic Bilbao dans un petit peu plus d'une heure, donc pour la dernière à Santiago Bernabéu de la saison. Merci Edgar, et bon match.
À
tout à l'heure. Salut Edgar. Allez, on termine dans quelques instants nos rencontres avec notamment la finale de la Ligue des Champions féminine, et malheureusement pour Lyon, ça ne se passe pas bien. Elles sont menées 2-0, les Lyonnaises, à un peu plus de 5 minutes maintenant, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. On va voir voir combien de temps additionnel il y a pour espérer encore pouvoir revenir dans cette rencontre, mais elles sont menées 2-0 et puis 7-5 pour Montpellier en finale de la Coupe de France de handball face à Nantes. On continue l'Intégral Sport dans un instant.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
19h46 sur RMC, la fin de l'Intégral Sport dans quelques minutes. Je vous rappelle les informations principales de la journée. Le titre, le deuxième d'affilée en Champions Cup pour l'Union Bordeaux-Bègles face au Leinster, 41-19 cet après-midi à San Mamés du côté de Bilbao. Le deuxième titre d'affilée pour les Girondins. Louis Bielbiaré élu joueur de la compétition, Maxime Lucu élu joueur du match, alors que la saison est loin d'être terminée, bien sûr, pour l'UBB qui affrontera Toulon le week-end prochain, avant-dernière journée de top 14, avant de recevoir Clermont. Bordeaux qui est cinquième de top 14, on le rappelle, qui se bat encore pour une place dans le top 6 et pour jouer les barrages. Et pourquoi pas cette année, encore une fois, aller titiller le leader toulousain. L'autre information principale et moins joyeuse, c'est le forfait d'Arthur Fils du côté de la Porte d'Auteuil à Roland-Garros. Arthur Fils qui a annoncé en conférence de presse cet après-midi, alors qu'il s'était entraîné ce matin, et bien qu'il déclarait forfait pour le Grand Chelem de Roland-Garros qui débute demain. 11 Français seront donc en tout au départ du tournoi, du tableau principal, mais pas d'Arthur Fils qui s'est plaint de nouvelles douleurs à la hanche qui sont survenues lors de sa semaine à Rome où il avait déclaré forfait, on le rappelle, au deuxième tour du tournoi italien. Donc ça, c'est la très mauvaise nouvelle du jour. On espère bien sûr que tout se passera bien pour Loïse Boisson qui, elle, sera bien au rendez-vous. Elle débutera lundi, la demi-finaliste de l'an passé pour le clan français. Allez, on retourne à Oslo avec la fin de cette finale de Ligue des Champions féminine, et malheureusement là, il n'y a pas trop de sourire côté Lyonnais. Morgane Mori, toujours 2-0 pour le Barça face à Lyon.
Oui, Alex, 89e minute, 2-0 pour le Barça face à Lyon. Deux réalisations de la meilleure buteuse de la saison passée sur le plan européen, la Polonaise Ava Pajor qui a été clinique face à Hendler, la gardienne lyonnaise. Les Lyonnaises ont eu un but refusé, il faut le rappeler, en première mi-temps, réalisation de Hips, mais elle était hors jeu au moment de récupérer la tête de Wendy Renard repoussée par la gardienne. Et il y a eu un face-à-face de Chawinga tout à l'heure. On l'a vécu en direct face à Cole pour revenir, pourquoi pas, à 2-1. Et bien c'est Cole qui a eu le dessus sur l'attaquante lyonnaise entrée en deuxième période. Et là, il reste une minute avant la fin du temps réglementaire, Alex, et à savoir combien de temps il y aura dans le temps additionnel. Mais on est parti pour que le compteur de l'OL en Ligue des Champions reste malheureusement bloqué à 8. Et comme en 2024, le bourreau en demi-finale s'appelle le FC Barcelone. Il fera un exploit. 90e minute, 2 pour le Barça, 0 pour les Lyonnais de l'OL.
Ouais, on reste un petit peu avec toi, Morgan, même si là ça prend quand même beaucoup de douleur pour les Lyonnaises de terminer cette rencontre. Elles ont eu des occasions importantes pour revenir. Il y a une frappe sur le poteau de Selma Bacha notamment tout à l'heure. C'est dommage.
Elles et là, il y a une nouvelle frappe catalane, et c'est au fond.
Bon, c'est terminé.
La reprise du gauche de Paraluelo, c'est magnifique, c'est pratiquement dans la lucarne, et là la messe est dite. Alex, 3-0 pour le Barça face à Lyon à la 90e minute. Il n'y a plus de débat, plus possible de revenir, c'est le Barça qui va être sacré champion d'Europe.
Ouais, là c'est la triste nouvelle, les têtes sont baissées, Morgan, juste avant l'entrée dans le temps additionnel côté lyonnais. Je leur ai porté un petit peu l'œil malheureusement, mais il faut le dire, félicitations, le but est magnifique.
Ouais, la reprise du gauche de Paraluelo, c'est pas une reprise de volée, il y a eu le rebond juste avant, mais c'est magnifique. 5 minutes de temps additionnel et forcément les Catalanes qui se rejoignent, qui dansent et qui font la ronde, et les Lyonnaises qui sont abattues. Wendy Renard les mains sur les hanches, la capitaine lyonnaise qui ne remportera pas un 9e trophée, battue par la meilleure équipe européenne tout simplement des années 2020. Lyon qui a fait un beau parcours en phase de groupe, un beau parcours en allant chercher des qualifications au match retour face aux Allemands de Wolfsburg, puis face à Arsenal, l'équipe championne d'Europe en titre. Mais le Barça était trop fort cet après-midi à Oslo. 3-0 pour le Barça, encore 5 minutes dans le temps supplémentaire de cette finale de Ligue des Champions.
Puis l'armoire à trophée a encore été gonflée mine de rien cette saison, même si ça ne sera pas une Ligue des Champions. Il y a eu la Coupe de France également.
Et la finale du championnat contre le Paris FC à venir.
C'est ça, exactement. Donc on est loin d'une saison vide quand même, même si là, le goût amer sera forcément dans la bouche. Elles avaient pourtant ouvert le score avec un but finalement refusé après l'intervention de la vidéo en première période et le scénario qui a totalement tourné pour les Catalanes.
Et tout à fait, Alex Salma Paraluelo qui revient tranquillement au footing. 7 minutes par temps de temps additionnel, il en reste un peu plus de 5.
On va en profiter du coup
3 pour le Barça face à Lyon, à 3-0.
On revient te voir bien sûr pour la fin de match entre le Barça et Lyon, donc 3-0 pour les Catalanes. Tout de suite, Morgan, on retourne à Bercy. La finale de la Coupe de France de handball, ça joue depuis un quart d'heure pratiquement, Clément Brossard. Et c'est très très serré entre Montpellier et Nantes.
Exactement, on est à la mi-temps de la première période. 7 pour Montpellier, 6 pour cette formation nantaise. Jette 7 mètres à venir et Pešić ne peut rien faire face à ce ballon bien placé, ce tir du droit de Kylian Villemont. Et donc ce score qui se porte à 8-6. On a eu pas mal de jeux brouillons de part et d'autre sur le côté offensif là depuis 2-3 minutes, avec un Rémi Desbonnets qui a sorti 2-3 ballons mais qui a vu l'arbitre sanctionner sa défense et il s'est montré un petit peu caractériel, notamment a pris un carton jaune d'avertissement. Et Romain Lagarde également, le joueur de l'équipe de France côté nantais, qui vit pour l'instant une finale compliquée puisqu'il a déjà connu deux fois 2 minutes de suspension. Donc il y a beaucoup de tension dans ce rendez-vous, beaucoup d'agressivité aussi dans le bon sens du terme, et on sent que chaque joueur est vraiment concerné. Il y a un vrai enjeu autour de cette finale de Coupe de France.
Paraluelo pour le doublé, ça fait 4-0 pour le Barça face à Lyon. Du gauche, elle prend un contre-pied, Christiane Hendler, elle va devant le camp barcelonais, les deux points en l'air, et elle est rejointe par sa coéquipière Pina qui lui saute sur les épaules. 4-0 pour le Barça face à Lyon.
Ouais, le score est très très lourd là en finale de Ligue des Champions, malheureusement pour les Lyonnaises qui craquent totalement dans cette fin de match. Il reste encore quelques minutes dans le temps additionnel, Morgan, a disputé. Je crois qu'il y avait 7 minutes au départ.
Ouais, il y a eu un affichage de 7 minutes, mais il reste 2 minutes. Alex, peut-être même que l'arbitre, Madame Olofsson, va mettre fin au calvaire des Lyonnaises avec ce 4-0. 2 buts de Pajor et 2 buts de Palaruero pour le Barça. 4-0, encore 2 minutes. Et c'est le Barça qui va soulever la Coupe d'Europe dans quelques instants.
Merci, Morgan. Retour à Bercy. T'as été coupé, Clément Brossard.
Je vous parlais de ces Nantais en difficulté, à l'image de Romain Lagarde qui a pris deux fois 2 minutes de suspension. Rémi Desbonnets bien dans sa cage aussi, qui a stoppé notamment un jet 7 mètres il n'y a pas si longtemps, de Valero Rivero, 41 ans, qui sera à la retraite à la fin de cette saison. Et Desbonnets cette fois est trompé, et les Montpelliérains qui sont plus tranchants offensivement et qui mènent 9-7 après 16 minutes 30 de jeu ici à Bercy.
Ça se déroule bien pour l'instant pour les Montpelliérains. Je vous rappelle aussi, il y a d'autres rendez-vous encore ce soir dans 2 heures, les qualifs du Grand Prix du Canada en Formule 1 après la victoire de George Russell sur la course sprint tout à l'heure. Et puis bien sûr, on en a parlé avec Edgar Grollo, le Real Madrid à 21h, dernier match de la saison, Kylian Mbappé titulaire avec le Real face à l'Athletic Bilbao. Retour du côté d'Oslo, Morgan Mori, pour la dernière minute, j'imagine, de cette finale de Ligue des Champions entre le Barça et Lyon.
Oui, il y a Schrader par exemple qui demande le ballon côté lyonnais. Bien sûr, on essaye de réduire l'addition, et Paraluelo, lorsqu'elle a marqué, elle a fait le geste en croisant les bras à parallèle au sol. Donc ouais, c'est terminé. Oui, 4-0 pour le Barça face à Lyon, fin amère pour les Lyonnaises qui ne remporteront pas un 9e trophée de Ligue des Champions. La nouvelle équipe reine du continent, c'est le Barça. Ça presse pour les Lyonnaises dans la surface de réparation, mais Cole, la portière barcelonaise, vient s'allonger sur le ballon. Encore 10 secondes et Madame Olofsson sifflera la fin de cette rencontre à Oslo, et le Barça ira soulever la Ligue des Champions. Le ballon pour les Barcelonaises, pour les Blaugrana, avec Brux sur le côté gauche. On joue avec Pina, on se met le long de la ligne de touche pour gagner du temps. Ça se bat pour les Lyonnaises. On vient chercher le ballon avec Ips, mais c'est terminé. Les 3 coups de sifflet de l'arbitre et le Barça qui s'impose 4-0 face aux Lyonnaises, face aux Lyon de l'OL. On est à genoux sur la pelouse d'Oslo, on n'en revient pas. Doublé de Pajor, la Polonaise, et en deuxième période sur le gong final pratiquement, Paraluelo, d'abord une magnifique frappe du gauche sous la transversale, et ensuite un contre-pied toujours avec son pied gauche pour tromper Hendler. 4-0 pour le Barça face à Lyon. Les Barcelonaises sont en train de danser à côté de la cage de leur gardienne Cole dans cette deuxième période. 4-0, score final dans cette finale de Ligue des Champions à Oslo.
Merci beaucoup Morgan Maury. Évidemment la fête ne sera pas au rendez-vous là cette fois-ci pour le club français. Lyon battu 4-0 en finale de la Ligue des Champions féminines, le visage fermé bien sûr de Wendy Renard, après pourtant avoir soulevé la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Il y aura peut-être quand même la finale du championnat de France, on l'a dit, face au Paris FC, mais ça ne sera pas la Ligue des Champions. Les Barcelonaises sont bien les reines de l'Europe ces derniers temps et elles le confirment encore une fois ce soir. Retour à Bercy avec Clément Brossard après le très bon début de match, la bonne entame de match des Montpellierens en finale de la Coupe de France de handball face à Nantes.
Et qui a obligé Grégory Cojean, l'entraîneur nantais, à prendre un premier temps mort après 18 minutes de jeu parce que les Montpellierens sont bien dans cette rencontre, bien dans cette finale et mènent de 4 buts, 11-7, avec notamment Arthur Lenne qui est entré en jeu, qui en vrai pivot est venu s'enrouler autour de son vis-à-vis avant de tromper Pesic du droit. Et puis Porte qui a lancé Léo Plantin notamment pour prendre ce bel avantage maintenant de 4 buts. On sent des Nantais en difficulté vraiment défensivement, on les sent aussi un petit peu dépassés parfois à l'image des deux suspensions de Romain Lagarde. Dans les transitions ils ont énormément de mal, dans le jeu offensif aussi c'est parfois très brouillon. Émeric Mine qui est le meilleur buteur du championnat de France, l'international français, le meneur de jeu de l'équipe de France, qui a du mal aussi à trouver ses partenaires. Julien Bosc qui est entré en jeu il y a quelques instants pour apporter un petit peu plus de précision aussi, et un joueur virevoltant pour apporter un petit peu plus de vitesse et de percussion à cette attaque nantaise qui en manque cruellement. 19 minutes de jeu, Rémi Desbonnets encore à l'arrêt, 11-7, il y aura un coup de sifflet juste avant, 11-7 pour Montpellier.
Merci Clément, et la suite de cette rencontre à vivre bien sûr dans Génération After qui démarre dans quelques minutes avec François Pinet qui nous rejoint. Salut François.
Salut Alex, salut à tous.
Grosse
très
journée.
Belle soirée, oui, grosse journée, il y a beaucoup de choses.
Soirée.
Beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Nous on va parler foot évidemment dans Génération After, on suivra le hand, tu l'as dit. Il y aura du foot en direct avec le Bayern qui joue face à Stuttgart, la Coupe d'Allemagne, la finale, et puis le Real Madrid, on suivra le dernier match de Mbappé de la saison avec le Real avant la Coupe du Monde, ça sera à 21h. Et puis notre gros débat sur Lens, est-ce que le plus dur commence? On vous fera écouter le président, il y a quelques instants, il était au micro de Jean Baumel, Joseph Augourlian, qui laisse quand même planer le doute sur l'avenir de Pierre Sage. Donc on va en parler, on parlera aussi des Niçois parce qu'il y a une menace de boycott des barrages. Donc info Maxime Tilliette à venir dans Génération After avec Jennifer Mendelevitch, Walid Acharchour et Elton Mokolo ce soir.
Très bien, très beau programme. Bonne soirée à tous sur RMC Génération After dans quelques secondes. Ciao ciao.
RMC Intégral Sport.